Vous êtes sur RTL.
Vous m'envoyez Marina, j'ai besoin d'elle aujourd'hui.
Allez, je vous l'envoie.
On va se pencher sur la météo qui fait des siennes. Météo très loin d'être estivale, excepté face à la Méditerranée où c'est bleu, ailleurs c'est gris, c'est frais, c'est la pluie en version non-stop, la cata pour les juilletistes, partis se refaire un moral en Bretagne, en Normandie, en Vendée ou dans les Landes. La galère pour les autres, habillés comme à la Toussaint, se ruant sur le chocolat plutôt que sur les glaces, obligés de mettre le chauffage alors que normalement c'est la ruée vers les clims. Nous irons donc ce matin prendre la température en Alsace sur les bords du Rhin qui montent dans les rues de Nancy. On scrutera le ciel avec Marina en attendant le soleil ce week-end et nous entrerons dans le cœur du sujet de préoccupation numéro 1 du moment avec une hydrologue et un spécialiste de la consommation. Ils seront nos invités à 8h20. Gardez le moral malgré tout cela. RTL est là rien que pour vous. Il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Isabelle Choquet à mes côtés pour toute l'actualité du jeudi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On va parler du mauvais temps dans ce journal, mais aussi de ce phénomène en pleine expansion, les faux passes sanitaires.
Certificat de vaccination, test négatif. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, c'est la chasse aux faux papiers pour échapper à l'injection. Le pass sanitaire contesté hier dans la rue et ça commence à grogner aussi contre le plan Green Climat de Bruxelles qui nous promet de nouvelles taxes sur les carburants. À suivre également un feu d'artifice sous Covid à Paris. Et puis le Tour de France, Pogacar domine outrageusement dans les Pyrénées. Le public, lui, n'en perd pas une miette.
RTL Matin.
Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi, je fais comme si je n'ai.
Toute la pluie tombe sur nous en ce début d'été. Ça fait des semaines que ça dure, en tout cas sur le nord et l'est de la France. On est environ 25% au-dessus des moyennes habituelles. En plus, il fait frais. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle une goutte froide. On la sent bien, la goutte froide. Bref, pour les juilletistes, les vacances sont bien tristes ou nettes. Vous nous le confirmez, Samuel Goldschmidt, à Nancy, où on plafonne aujourd'hui à 16 degrés sous les averses.
Il faut avoir le moral sous cet arrosage quand on est professionnel. Lionel Lougier, le directeur de la brasserie Jean Lamour, scrute continuellement le ciel.
Comme vous dites, c'est bien pourri. Quoique nous, nous avons la chance d'être sur une place touristique. Mais c'est vrai qu'on rencontre là un temps qui ne va pas du tout.
Ça a un effet immédiat sur la fréquentation ?
Immédiat. Notre meilleure publicité, c'est le soleil. C'est vrai qu'on ne sort pas les mouchoirs, mais on n'est pas loin.
Il y a pourtant quelques touristes qui en profitent en quelque sorte.
De toute façon, on a pris les parapluies, alors après, on va s'acclimater.
C'est quand même un gros avantage, vous êtes quasiment seul là.
Oui, ça c'est bien parce qu'on peut visiter sans se faire marcher sur les pieds.
Il n'y a personne, on peut prendre des photos tranquilles.
Photos grisâtres, non loin dans les stands de friandises, les crêpières fonctionnent bien plus que les machines à glace.
C'est sûr que c'est un début de saison un petit peu difficile. Hein.
Est-ce que vous regardez la météo le matin ?
Oui. Alors, je crois que c'est vous qui avez publié un bulletin ce matin. En tout cas, il disait qu'on était en vigilance orange.
Exactement. Tous les départements lorrains plus quelques autres sont en alerte pluie-inondation. Ce début d'été est littéralement noyé sous une douche continue.
Reportage RTL signé Samuel Goldschmidt à Nancy. Notez que ces fortes pluies ont fait déborder plusieurs rivières dans les régions wallonnes en Belgique. La ville thermale de Spa a été inondée. Des centaines d'habitants ont été évacués.
Il est 7h02, l'obligation vaccinale pour les soignants. L'extension du pass sanitaire, ça ne passe pas forcément très bien dans la population.
Hein. Oui, il y a ceux qui se résignent et qui se précipitent dans les centres de vaccination. Et ceux qui contestent, ils étaient près de 20 000 hier dans toute la France à manifester contre les nouvelles mesures. Rassemblement spontané relayé par les réseaux sociaux. Si les manifestants ont envahi la cour de la préfecture après avoir cassé la grille. Même chose à Bourg-en-Bresse, mais sans casse. Après les annonces d'Emmanuel Macron, tout le monde ne s'est pas rué sur Doctolib. On a constaté ce soir-là un pic impressionnant dans les recherches Google. La requête « faux pass sanitaire » ou encore « faux vaccin ». Le trafic risque fort d'exploser. En fait, tous les moyens sont bons, Zoé Pallier.
C'est un drôle de message reçu par Raphaël mardi matin, celui d'un inconnu prêt à tout pour éviter le vaccin.
Une personne me sollicitait en me demandant si je m'étais fait vacciner et si je voulais bien partager mon QR code avec lui puisqu'on avait le même nom et le prénom apparemment. J'ai cru que c'était un copain qui me faisait une blague. Je pensais pas que quelqu'un allait chercher son homonyme. J'avais pas réfléchi à la situation de il y a le nom et le prénom sur le QR code. Pas du tout.
Ironie du sort, Raphaël est médecin. L'occasion donc pour lui d'essayer de convaincre son interlocuteur de l'intérêt du vaccin. Sans succès.
Ce monsieur n'a pas souhaité continuer à discuter avec moi et je pense qu'il est allé chercher ailleurs.
Et il trouvera sans doute quelqu'un pour lui revendre une attestation trafiquée, tant les offres fleurissent ces derniers jours sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées pour des sommes allant jusqu'à 500 euros, explique Damien Bancal. Il est expert dans la lutte contre le cybercrime.
C'est malheureusement pas compliqué à fabriquer, il est là le problème. Et ça ne sera pas compliqué non plus à utiliser, eh bien, chez un restaurateur ou un magasin qui n'utilisera pas des outils qui vérifient l'authenticité.
Et ceux qui utilisent ces faux documents risquent la même peine que ceux qui les fabriquent, à savoir 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Enquête RTL signée Zoé Pallier. Le pass sanitaire sera indispensable dès mercredi prochain pour aller au cinéma ou dans les musées et à partir du mois d'août pour accéder aux bars, aux restaurants ou pour voyager. Et à ce propos, sachez qu'Air France vous propose dès demain son service Ready to Fly, prêt à voler. C'est une information RTL. En gros, pour éviter les formalités à l'aéroport, vous pourrez transmettre votre passeport sanitaire à la compagnie 3 jours avant le départ. Tout sera vérifié en amont et vous n'aurez plus qu'à présenter votre billet d'avion à l'embarquement, comme au bon vieux temps en quelque sorte. Le pass sanitaire, c'était aussi le sésame pour assister hier soir au feu d'artifice du 14 juillet sur le Champ de Mars à Paris. Mais le jeu en valait la chandelle, Gauthier Delambugard.
Les éclats de couleurs claquent dans le ciel parisien. Les flamèches teintées d'or crépitent au-dessus de la tour Eiffel et se reflètent dans les yeux de ces jeunes spectateurs et de leurs parents.
C'est magnifique. Je vois la tour Eiffel avec plein de feux d'artifice. Il y a rouge, vert et doré.
Très joli.
Avec la musique, ça va très bien.
On a l'impression de revivre.
Sous les enceintes, Brigitte et ses deux petites filles.
Il fallait le pass sanitaire, donc on les a testés, fait tester lundi, et puis voilà.
Bien, au début j'avais peur, mais ça s'est bien passé.
Contraignant, mais bon, on le fait. Pour reprendre tout à fait une vie normale.
Admirer cette prouesse pyrotechnique, c'est une première pour ce couple francilien.
Ça me fait plaisir. Franchement, ça fait du bien.
Ça vous a dérangé de devoir montrer le pass sanitaire pour entrer ici?
Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est bien quand même. Et avec ce qui se passe en ce moment, bon, avec le Delta et tout ça, bon.
Ça permet de profiter de plein de choses dont on était privé, quoi.
Patrick et Brigitte s'arrêtent net de parler. Le couple se fige, les yeux vers le ciel, hypnotisé par la beauté de ces balais de lumière qui semblent transpercer la tour Eiffel.
Feu d'artifice parisien, reportage RTL de Gauthier Delambugard.
Isabelle L'Europe a présenté hier son plan pour le climat, un Big Bang qui suscite beaucoup de réactions.
Oui, Bruxelles veut frapper fort pour atteindre une réduction des gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Une douzaine de mesures sont sur la table, notamment la fin des voitures thermiques à partir de 2035 ou encore de nouvelles taxes sur les carburants, que ce soit pour le transport routier ou le chauffage des bâtiments. Des taxes qui se répercuteront forcément sur la facture des particuliers. Réaction du côté de Lille avec Franck Hanson.
À la pompe du supermarché de Mont-Saint-Barœul, ils ne sont pas vraiment emballés, ces automobilistes, à l'idée d'une augmentation des prix.
C'est une punition injuste.
Tout est bon pour augmenter quand c'est arrangé. Pour l'essence, on est quand même passé à 1,52.
Moi, je fais de la route.
J'ai des frais. Bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais est-ce que c'est sur le prix de l'essence avec les voitures que ça marche le plus?
Quant aux véhicules électriques, au-delà du coût, c'est toujours la question de l'autonomie qui rend perplexe Jean-Marcel, fonctionnaire.
Il faut savoir qu'une voiture électrique, comme on voit beaucoup, c'est qu'on va faire 250-300 km. Il faut voir dans le temps combien après vont tenir les batteries. Ici, actuellement, avec une voiture thermique, on peut descendre jusque de la France.
Georges, un réalisateur lillois à la fibre écologique, est déjà convaincu, mais les collectivités doivent s'adapter.
Il y a vraiment urgence. De toute façon, dans les villes, ça devient irrespirable. Le vrai souci, c'est qu'il faut qu'il y ait un programme rapide d'installation de bornes pour les recharges d'électricité. Pour le voisin, c'est compliqué. Il a acheté une voiture électrique, il est obligé de passer un fil sur le trottoir pour pouvoir recharger sa voiture.
Laetitia, une mère de famille, vient justement de changer de voiture. Toujours au diesel.
Bien obligé de prendre son véhicule, malheureusement. Mais nous, on a fait le choix. On a quand même qu'un véhicule pour 3 conducteurs. Donc, on m'arrive en métro, mon fils aussi. C'est un compromis.
Des nordistes attachés à leur fameuse bagnole, mais qui peuvent aussi faire des efforts.
Franck Hanson, RTL à Lille. Bruxelles qui veut des voitures 100% électriques pour 2035. Adieu l'essence, le diesel et l'hybride. Un coup de massue va nous dire à 7h15 notre invité, François Roudier, le porte-parole du PFA, la plateforme automobile qui réunit constructeurs et équipementiers.
Deux anciens prisonniers français de Guantanamo ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer les tortures qu'ils ont endurées. Ces deux hommes avaient été arrêtés en Afghanistan après les attentats du 11 septembre. Ils ont été détenus jusqu'en 2004 sur la base américaine de Cuba et ils affirment avoir subi de multiples sévices, c'est ce que raconte Mourad Benchelali.
Les interrogatoires ont utilisé ce qu'eux ont appelé des techniques d'interrogatoire renforcées, comme la privation de sommeil par exemple, l'utilisation de flashs de lumière. Le fait d'être menotté dans une salle qui était spécialement aménagée, il y avait des grosses enceintes avec de la musique très très forte, l'utilisation de la climatisation, on jettait de l'eau froide et puis on nous laissait grelotter toute la nuit, menotté dans des positions douloureuses, les humiliations sexuelles, et c'est ces choses-là que nous dénonçons en fait. Parce que l'idée, c'est pas de s'en prendre aux États-Unis, voilà, c'est de pouvoir déconstruire l'impunité des responsables de torture à Guantanamo en fait.
Propos recueillis pour RTL par Cindy Hubert. Aux États-Unis, nouvelle audience pour Britney Spears qui cherche à se libérer de la tutelle de son père. Une lueur d'espoir, la star peut enfin embaucher un avocat pour la représenter.
RTL Tour de France 2021.
Et Pogacar a de nouveau assommé la concurrence, Isabelle, hier dans les Pyrénées.
Le Slovène en jaune, avec plus de 5 minutes d'avance, s'est offert la 17e étape avec une arrivée au col du Porté, la plus haute altitude de cette grande boucle 2021. Le public se régale. Morad Jabari, vous avez assisté hier à l'ascension des coureurs dans un virage du col au milieu des spectateurs.
Et l'attente interminable, oui, au sommet, pas très loin des nuages, en compagnie de la famille Dumas et Philippe qui trépignent d'impatience avec leur casquette à poids de la caravane sur la tête.
Vous êtes monté à pied, j'imagine ? Vous attendez depuis combien de temps ?
5 heures.
C'est incroyable, avec toutes les montées, c'est beau à voir.
Et là, vous êtes en vacances ?
Ouais, on est en vacances pendant 5 jours ici.
C'est cool de voir le Tour de France pendant les vacances, ça fait une
bonne
journée.
C'est super bien.
La voiture rouge, c'est bon signe, ça veut dire que ça arrive, c'est imminent.
Regarde, Pogacar, allez ! Allez Godu ! Allez Godu !
C'est un breton.
Ça va vite, hein ?
Moi j'ai monté. Ça, celui-là, il est dur. Hein.
Allez, c'est Guillaume Martin, là.
Mais la vitesse où il monte, c'est incroyable. Avec les grosses montées et tout.
Quand vous voyez la vitesse à laquelle Pogacar est passé devant nous.
C'est impressionnant, hein ?
Alors lui, c'est Geraint Thomas. Il a gagné le Tour de France en 2018.
Ah ouais, il n'y a pas longtemps. C'est les 6 ans ou 5 ans. Ouais, à peu près. Le courage qu'ils ont pour faire ça.
Tu penses que tu pourrais ?
Non. Une Tour de vie, ça, je pourrais le faire. Le Tour de France, non.
C'est qui votre préféré ?
Les Français.
Tous les Français.
Voilà. Oui, même qu'ils soient premiers ou derniers, c'est quand même incroyable ce qu'ils font.
Bon, merci beaucoup les amis, à bientôt.
Merci à vous.
Profitez bien des vacances. Ouais. Et bon Tour de France.
Merci, à vous aussi.
Morad Jabari avec les spectateurs hier au col du Porté. Aujourd'hui encore du beau spectacle en perspective. Une dernière étape de montagne entre Jurançon et Luz-Ardiden avec deux ascensions hors catégorie, le Tourmalet et la montée Filane vers Luz-Ardiden. Notez qu'Emmanuel Macron sera présent sur le Tour. Et puis demain pour la traversée des Landes, les spectateurs devront porter le masque. Oui, le département est submergé par le variant Delta.
Les chevaux, les courses, Isabelle, c'est à Enghien aujourd'hui.
Et voici les pronostics de Jordan Philippi. Le 2, le 15, le 5, le 10, le 3, le 11 et le 4. 2, 15, 5, 10, 3, 11, 4. La dernière minute de Jordan, c'est le 10. Vincent Ferme.
Merci Isabelle Choquet. On vous retrouve avec plaisir tout à l'heure, 8h, pour toute l'actualité. Il est 7h11.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Et nous faisons étape ce matin en Vendée, dans le sud-est du département, à la découverte d'un village de 156 habitants qui ont la tête dans les étoiles, car le bourg possède par arrêté municipal son propre méridien avec un décalage horaire de 2 minutes et 38 secondes sur le célèbre méridien de Greenwich. Bonjour Patrice Gabart.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors vous êtes notre guide ce matin dans ce village aux étoiles.
À la chapelle aux Lys, dans les collines vendéennes, on peut apercevoir jusqu'à 2500 étoiles par une nuit sans lune, 100 fois plus que dans une grande ville. Ce qui a conduit Olivier Sauzereau, astrophotographe et historien des sciences, à y installer sa famille et son télescope.
Au jour d'aujourd'hui, vous avez 80% des Européens qui ne peuvent plus voir la Voie lactée. Et cette Voie lactée, ici, elle est parfaitement visible, comme un nuage d'étoiles, hein, d'une manière merveilleuse.
Son voisin, Philippe Boisson, qui est aussi le maire de la commune, découvre alors un nouvel univers et décide de l'associer à la vie du village. L'aventure commence en 2004 avec la création d'un jardin au cadran devant la mairie.
Il y a un cadran en allématique, il y a un cadran solaire qui a été fait avec du matériel agricole, il y a le méridien, il y a le cadran de berger qui normalement c'est un couteau suisse, mais maintenant c'est un XXL fait avec un ballon d'eau chaude de 200 litres.
Dans le bourg, on compte aussi 27 photos d'astronomie, certaines signées de la NASA et des panneaux de signalisation à l'oblique qui indiquent la distance de certaines étoiles, 433 années-lumière par exemple pour l'étoile polaire. Mais le plus original, c'est le chemin aux étoiles, un parcours en 8 symboles de l'infini avec des bandes explicatives.
C'est l'histoire de l'univers que vous découvrez un peu comme si vous marchiez sur une frise chronologique, sauf qu'elle fait 4,5 km et elle est à l'échelle de 1 mètre pour 3 millions d'années. Alors on part du Big Bang, la naissance de notre univers, et puis on va découvrir le rayonnement fossile, la naissance des premières étoiles, la naissance du Soleil, puis la naissance de la Terre, la mort des dinosaures, et on arrive à l'humanité qui va occuper seulement quelques millimètres à l'échelle de tout ce parcours.
Et à la naissance du Soleil, vous avez la possibilité de faire une autre boucle plus courte. courte, 1 km 700, pour découvrir le système solaire.
Cette fois, on change d'échelle au niveau spatial. Chaque fois que vous parcourez un pas, c'est comme si vous parcouriez 5 millions de kilomètres. Et à cette échelle, la Terre, elle fait 2,4 mm. La Lune, elle est à 8 cm. Mars, elle est à presque 10 mètres.
La cerise sur le gâteau, c'est le planétarium construit en 2019 dans l'ancien presbytère et animé par des bénévoles pour découvrir le ciel et repérer les constellations, jusqu'à 12 personnes à chaque embarquement.
C'est un planétarium de dernière génération qui nous permet aussi de quitter la Terre, de voyager littéralement dans le système solaire, de planète en planète. On peut même se poser sur Mars ou au milieu des nuages de Jupiter. On peut même quitter le système solaire et voyager dans le flot des galaxies.
On donne ce qu'on veut, c'est le paiement à la chaussette et mieux vaut réserver sa place à l'office de tourisme de la Châtaigneraie. Et enfin, les 14 et 15 août prochains, le village aux 4 étoiles pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne tiendra son traditionnel festival Astropolis avec débats, conférences et observations au télescope.
Un été en France, séquence aération ce matin en Vendée, promenade signée Patrice Gabart, 7h14. Vous restez bien là dans un instant. Le Green Deal de Bruxelles, son plan climat qui veut faire une croix sur les moteurs diesel et essence pour du 100% électrique. C'est dans moins de 15 ans, figurez-vous. On en parle juste après ceci.
Passez un bel été sur RTL.
N'oubliez pas, juste avant 9h, l'un de vous pourra jouer au grand jeu RTL de l'été pour tenter de gagner un voyage de rêve, le meilleur de la technologie, une trottinette électrique ou 1000 euros cash. Envoyez dès maintenant RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS ou appelez le 3210, 50 centimes la minute.
RTL Matin. Stéphane Carpentier.
À 7h16, on va s'arrêter ensemble sur ce qui a été un coup de tonnerre. Bruxelles a dévoilé hier son Green Deal, son vaste plan climat, dont l'une des mesures phares est de réduire à zéro les émissions des CO2 des voitures neuves dans l'Union européenne à partir de 2035, autant dire après-demain. Je traduis tout cela, ça veut dire que Bruxelles veut des moteurs 100% électriques et la fin des moteurs thermiques. Adieu les moteurs essence, diesel ou encore hybride. Bonjour François Roudier.
Bonjour.
Merci d'être connecté ce matin sur RTL, porte-parole du PFA, la plateforme automobile qui réunit constructeurs et équipementiers. Vous l'aviez vu arriver cette annonce, vous, ou c'est un véritable coup de massue ?
Alors c'est un coup de massue, mais on s'y préparait. Hein. C'est pour cela que le président de la République a reçu notre président Luc Chatel avec tous les représentants du secteur automobile, c'est-à-dire à la fois nous, la plateforme industrielle, ainsi que les gens des services, ce lundi. Et en fait, c'est la version la plus dure que nous voyons arriver.
Une mesure irrationnelle, ont dit les constructeurs automobiles hier. Pourquoi ?
Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs années, on s'est engagé dans l'électrique. L'électrification n'est même pas une question, puisque de toute façon, vous voyez des paquets de milliards qui tombent tous les jours pour l'électrification, la création d'usines de batteries. On annonce encore aujourd'hui une nouvelle usine de batteries en Angleterre. On voit très bien que le pli est pris. Mais ce qui est vraiment un retour en arrière, c'est cette notion de ne privilégier qu'une seule technologie. Parce que pour arriver à 0 g de CO2 par kilomètre, on ne peut faire que de l'électrique pure. Or, on a toujours défendu, ainsi que les États d'ailleurs, cette notion de neutralité technologique, c'est-à-dire faites un objectif et laissez-nous y arriver avec différentes technologies. Ça peut être l'électrique, l'hydrogène, la réduction sur certains carburants avec carburant synthétique ou du biocarburant. Donc, c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est la vision un peu monolithique de la politique européenne sur ce sujet.
Là, on comprend qu'on arrêterait de vendre et de fabriquer aussi hein, des voitures essence et diesel, mais également des voitures hybrides dans quoi ? Dans à peine 15 ans. Est-ce que c'est pas nécessaire quand même de forcer un peu la main des constructeurs pour que cette fameuse transition écologique des modes de transport ait lieu ? On a le sentiment parfois que les constructeurs ils jouent pas le jeu à fond.
Alors, peut-être qu'il y avait cette idée-là, ce sentiment, il y a 15-20 ans. Maintenant, lorsque vous regardez ce qui est en train de se faire, c'est absolument phénoménal. On est dans une révolution technologique, on n'est pas dans une transition. Les dernières présentations des groupes Renault et Stellantis montrent que, de toute façon, on avance dans une dimension électrique qui est considérable. Chaque modèle devient électrique, et vous avez même maintenant des constructeurs qui vous annoncent qu'ils ne produiront plus de voitures thermiques ou même hybrides à partir d'une certaine année. Nous, ce qu'on voulait absolument maintenir, et l'Élysée d'ailleurs partage totalement cette idée, ainsi que d'ailleurs des personnalités en Europe, hein, je pense à Pascal Canfin qui a cette vision-là aussi, c'est de dire que il faut avoir une vision un peu sociale et un peu client du passage à l'électrique. Vous ne pouvez pas d'un seul coup mettre tout le monde dans des voitures purement électriques avec une autonomie limitée, et le passage avec l'hybride est une très bonne transition vers l'électrique. Donc c'est pour ça que nous avions associé les deux.
C'est pas le sens de l'histoire quand même, l'électrique, parce que la voiture électrique, elle est déjà plébiscitée. Sur les 4 premiers mois de cette année, par exemple, il s'en est vendu presque 3 fois plus que sur la même période l'an dernier.
Alors oui, vous citez un chiffre qui est un très bon chiffre, mais il faut voir que on a vendu plus de voitures électrifiées que de voitures diesel. Mais là-dedans, la part de l'hybride est considérable. Mmh. Et cet hybride, alors il est certes fait par les constructeurs français, mais vous avez aussi Toyota à Valenciennes, qui est une usine très très importante dans la production française maintenant. Donc on est sur un schéma qui pour nous est plutôt le schéma qu'on appelle destructeur. On a deux visions du futur de l'automobile en France, hein, c'est ce qu'avait précisé Luc Chatel. Il y a le scénario catastrophe, c'est-à-dire ben on évolue quasiment pas, et là on perd 100 000 emplois dans l'industrie, 50 000 dans les services. Ou l'autre sujet sur lequel on pousse avec tout un plan pour la filière automobile, c'est le rebond, où là on va créer des zones un peu franches où nous allons faire de l'électrique à haut niveau. Mais pour faire de l'électrique à haut niveau, c'est un jeu avec les pouvoirs public. On a annoncé que pour arriver à un objectif d'une France qui se tiendrait encore dans à peu près 10% de ce que représente la valeur ajoutée de l'automobile mondiale, il faut plus de 17 milliards d'investissements. Mmh. Un tiers de cet investissement revient à l'État, dont une partie importante sur les bornes de recharge. Parce que sans bornes de recharge, vous n'avez aucun attrait pour le véhicule électrique.
Ça veut dire quoi que vous pensez qu'une dizaine d'années pour une révolution, c'est trop peu, c'est trop court ?
Il faut faire une révolution en bon ordre. Hein, et là, la Commission, et c'est ce qui est critiqué par certaines associations automobiles sœurs, je pense à nos amis allemands, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas eu de véritable plan social et d'évaluation derrière ces annonces. Alors, il faut rester quand même lucide. La Commission propose quelque chose qui va être à discuter, ouais, et qui débattu. Va être in fine débattu et voté par le Parlement, c'est-à-dire les élus des citoyens européens.
Oui, François Roddy, on peut imaginer qu'il va y avoir un véritable bras de fer, au-delà de discussion même, hein, entre les pays producteurs de voitures, l'Allemagne, la France, l'Espagne. On construit des voitures aussi en Roumanie, en République tchèque, en Italie, bien sûr. Et puis il y a les autres États sans constructeurs nationaux, je pense aux Pays-Bas, à l'Autriche, au Danemark, ça va pas être simple.
Oui, c'est effectivement compliqué. Puis il y a peut-être effectivement un lobby des pays qui construisent pas vraiment beaucoup de voitures. Mmh. Et puis vous lorsque vous annoncez ces pays, regardez leur géographie. Ce ne sont pas des pays qui ont besoin de voitures pour faire Paris-Marseille.
Et vous parliez des conséquences sociales à tout cela et de plus de 100 000 emplois menacés. Je précise que la fabrication d'une voiture électrique réclame une main d'œuvre 3 fois moins nombreuse que celle d'une voiture thermique, ce qui est très important à souligner. Merci François Roudier de nous avoir expliqué les choses ce matin. Porte-parole du PFA, la plateforme automobile qui réunit constructeurs et équipementiers. 7h22, bon réveil à vous tous, j'espère que vous êtes en forme. La musique arrive, la pépite d'Anthony Martin. Anthony Martin avec un M. Bon, Anthony Martin, c'est pas terrible.
Bah oui.
Non, Martin,
maître
c'est
de
mieux.
Stage, vous avez des progrès à faire.
Tout de suite. RTL Matin. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Tous les matins, vous régalez nos oreilles l'heure de notre pépite musicale quotidienne, on vous écoute.
Alors, en 44 ans de carrière, Francis Cabrel s'est accordé quelques pas de côté. Hein. Il a adapté Bob Dylan, James Taylor, Gigi Kale, Otis Redding. Et côté français, moins d'influence pour Cabrel, mais tout de même, il a chanté Brassens, Balavoine et Jacques Dutronc. On ne le sait pas forcément, mais Cabrel considère Dutronc comme un modèle de musicien, de compositeur, d'interprète, d'humour et modèle de discrétion aussi. C'est C'est pour toutes ces raisons qu'en 2015, Francis Cabrel a dit oui lorsqu'on lui a demandé de reprendre une chanson de Dutronc pour un album anniversaire. Cabrel avait 13 ans lorsque Dutronc a fait une entrée fracassante dans le paysage en décontractant la chanson française avec des titres comme par exemple « On nous cache tout, on nous dit rien ». C'était la phase B du 45 tours Les Playboys et c'est notre pépite du jour. « On nous cache tout, on nous dit rien » par Francis Cabrel.
La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est palisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucmuche et l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache, cache et cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information.
Voilà ce texte féroce de Jacques Lanzmann, définitivement du grand art, hein, qui n'a pas pris une ride depuis 66. Francis Cabrel se l'approprie de manière vigoureuse. On trouve cette version sur l'album collégial Joyeux anniversaire Monsieur Dutronc qui était sorti en 2015. Et dans le dernier album de Francis Cabrel, on trouve un morceau qui a pour titre Chanson pour Jacques. Et c'est une ode à la vie façon Dutronc sur une rythmique à la Dutronc.
Un vrai régal ce matin encore. C'est signé Anthony Martin pour la pépite musicale. 7h26, la garantie bonne humeur sur RTL. Ce sont les grosses têtes cet après-midi, 15h30, pour le meilleur de la saison, orchestré par Laurent Ruquier, avec le carton des séries télé, tiens.
Vous qui êtes manifestement maqué avec Netflix, c'est quoi votre série préférée, monsieur Elmaleh?
Alors, ma série préférée, oh là là, Plique, j'aime bien Master of None avec Aziz Ansari.
Moi, j'aime bien Jacoule Croquant. Il y a une série magnifique sur Netflix,
c'est
The Crown. The Crown, tu l'as, tu
l'as. The Crown.
De toute façon, maintenant, il y a tellement de séries que tu peux dire n'importe quoi.
Oui, enfin,
ça a l'air d'être une série.
Absolument.
Moi, j'adore The Crockbrook Brumsters.
Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui ont des séries qu'ils aiment et quand tu l'aimes pas ou tu la connais pas, ils sont outrés. On dirait que t'as une maladie. Oui. Tu connais pas Fringers? Ouais. Non, je connais pas Fringers. Et après, il te dit toujours un truc. Il te dit, écoute, c'est vrai que les 9 premiers épisodes, c'est un peu dur. Mais une fois que tu rentres dedans, tu vas plus pouvoir. Mais c'est pas un boulot, j'ai pas envie d'attendre 9 épisodes. Quoi, tu vois. C'est fou ce
truc. C'est vrai que c'est un peu ça. Monsieur Benichou, laquelle. Non, me dites voilà, pas Rex. Connaît...
Netflix, il croit que c'est un antibiotique, monsieur Benichou.
Les grosses têtes et Laurent Ruquier vous attendent à 15h30 ce jeudi ou alors vous avez le podcast à disposition. C'est tout simple, c'est directement sur l'appli RTL. 7h27, le ciel, ça nous intéresse Marina parce que c'est toujours autant agité. Avant de s'intéresser à notre territoire, j'aimerais qu'on donne des nouvelles de la situation chez nos voisins belges parce qu'ils sont nombreux à nous écouter de l'autre côté de la frontière. Il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations. Hein.
Mais oui, parce que la goutte froide qui concerne la France, là sur le nord-est du pays, ne s'arrête pas évidemment à la frontière. Elle concerne aussi la Belgique. Là, au moment où je vous parle, c'est surtout sur l'est de la Belgique, il pleut le plus. Je vais vous donner un exemple. On va aller à Buzenol. Buzenol, c'est dans le sud-est de la Belgique. Là, il a plu en 24 heures 79 mm. C'est à peu près les mêmes quantités que l'on a dans les Ardennes, qu'on a eu dans les Ardennes. C'est l'équivalent d'un peu plus d'un mois de pluie. Et ça ne touche pas que la Belgique, parce que le Luxembourg aussi est également touché par ces pluies importantes. Là, Luxembourg, justement, on a eu 75 mm de pluie et il continue de pleuvoir.
En Belgique, la ville thermale de Spa a été inondée. Il a fallu évacuer des centaines d'habitants. On revient chez nous, donc, des vigilances dans l'est. Hein.
Ben oui, justement, parce que cette goutte froide est encore là. Et là où on a les pluies les plus soutenues, c'est des Ardennes, à la Bourgogne, jusqu'à la Franche-Comté. Ça va un peu mieux sur l'Alsace et la Lorraine. Les averses sont là, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Mais bon, il a beaucoup plu là aussi en 24 heures, l'équivalent d'un mois de pluie, voire un petit peu plus pour certains. C'est le cas, par exemple, à Bras-sur-Meuse. Donc, dans la Meuse, 90 mm. Là, c'est l'équivalent de 38 jours de pluie. Les 10 départements qui sont encore en vigilance orange, Orange. Eh bien, il s'agit des 10 départements qui vont des Ardennes à l'Aisne, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est plutôt cette zone-là qui est touchée. Ça va être touché toute la journée en plus. Des pluies continues, parfois orageuses. Mais le temps assez maussade concerne une grande partie nord-est, puisque ça va du Grand Est en descendant jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a pas mal de pluie d'ailleurs là en ce moment sur la Savoie. Et puis en allant vers la Méditerranée, c'est beaucoup plus calme. Ils ont l'habitude ces derniers jours du soleil, mais du vent toujours présent. Rafale 60-70 km par heure, que ce soit pour le Mistral, la Tramontagne et aussi le vent sur les côtes corses. Pour les autres, on va vers le mieux avec très peu d'averses, quelques-unes qui traînent sur le sud-ouest, mais les éclaircies vont revenir, en gros des Pyrénées, en remontant vers la Manche. Et sur les côtes, le soleil va même bien dominer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont en vacances là-bas. Pour l'Île-de-France, on aura des éclaircies ce matin, quelques passages nuageux cet après-midi. La Seine-et-Marne pourrait être touchée de nouveau toujours par quelques pluies, c'est possible. Et côté température, 18 à Besançon, 21 à Cherbourg, 22 à Lille, 25 à Paris cet après-midi, 28 à Marseille.
Et je voudrais, moi, ce matin, être comme Bernard, qui est au Lavandou, dans le Var, il est face à la mer et lui il a du...
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est le Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce 15 juillet.
Vacciner, 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 c'est le mot d'ordre depuis des mois dans le monde pour lutter contre le coronavirus. Même si les injections se multiplient, l'OMS tire la sonnette d'alarme concernant les autres maladies. Un chiffre, 23 millions d'enfants sont sous-vaccinés dans le monde à cause des retards pris avec la pandémie. L'organisation parle d'un risque de catastrophe absolue, Jean Le Chemier.
L'OMS a mesuré le taux de vaccination du DTP, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Bilan, en moyenne, on est passé d'une couverture vaccinale de 86 à 83%. Sur le papier, ça paraît peu, mais c'est 23 millions d'enfants en moins protégés contre ces maladies, dont 17 millions qui n'ont reçu aucune des trois doses requises. C'est comme si on était revenu 10 ans en arrière, explique la docteure Anne Lindstrand de l'OMS.
Il y a un risque imminent de voir apparaître de nouvelles épidémies, des épidémies de rougeole, de polio. Nous devons impérativement atteindre ces enfants que nous avons perdus de vue pendant la pandémie. Sinon, nous ne ferons qu'échanger une crise contre une autre.
Alors, comment expliquer ce recul? Il y a déjà les pénuries de matières premières, toutes réquisitionnées pour la fabrication de vaccins anti-Covid. Il y a aussi la saturation des services de santé et la crainte des familles de contracter la Covid en se rendant dans les centres de soins. Les premières conséquences de ce mouvement se font déjà sentir en Afrique, où 8 pays sont confrontés à des épidémies de rougeole, alors que les campagnes de vaccination sont à l'arrêt.
Les précisions de Jean Le Chemier pour RTL. Chez nous, le virus regagne du terrain, plus de 8800 nouveaux cas en 24 heures, deux fois plus qu'il y a une semaine. L'arme, c'est le vaccin, mais aussi le masque. Malgré l'entrée en vigueur du pass sanitaire, il va rester obligatoire dans les trains jusqu'à la fin août, annoncé sur RTL du ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, et pourrait être progressivement retiré dans tous les lieux clos soumis au pass sanitaire. Et cela se fera sans risque, selon l'épidémiologiste Philippe Amouyel.
Dans la mesure où les gens qui rentrent sont contrôlés pour savoir s'ils sont vaccinés ou PCR négatifs, à ce moment-là, le port du masque n'est plus nécessaire. Le risque s'effondre. Les Américains ont déjà mis en place la levée du port du masque pour les personnes totalement vaccinées à deux doses et à plus de 15 jours de leur deuxième dose. Jusqu'à présent, dans les régions qui mettent en place des mesures barrières assez strictes, on n'a pas vu de modification particulière de l'incidence. Donc dans ces conditions, et c'est ce qu'on pouvait attendre et déduire des connaissances que l'on a sur la vaccination maintenant, c'est que la suppression du port du masque pour les personnes complètement vaccinées dans des lieux clos ne semble donc pas poser de problème.
Le professeur Philippe Amouyel, joint par Agathe Landais.
Le pass sanitaire, Hortense, c'était la cible de 20 000 manifestants hier dans tout le pays.
À Lyon, Toulouse ou encore Annecy, des rassemblements au nom de la liberté et pour fustiger les annonces d'Emmanuel Macron. Écoutez, ce manifestant présent avec 2 000 personnes dans le cortège parisien, lui refuse de se faire vacciner.
On rentre en dictature là, le pass sanitaire, c'est un système de contrôle social qui fait deux catégories de citoyens, les bons citoyens et les mauvais citoyens. Aujourd'hui, les bons citoyens, c'est ceux qui acceptent le vaccin. Demain, ça pourrait être n'importe quoi d'autre que l'État pourra nous imposer. Et d'un clic, il pourra nous interdire d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de vivre tout simplement. C'est absolument scandaleux, c'est une rupture au niveau des libertés, c'est une rupture au niveau de l'égalité. Donc même si le vaccin était sûr, qu'il était hyper efficace, etc., je ne me ferais quand même pas vacciner, parce que c'est un moyen d'imposer ce contrôle social.
ce manifestant présent dans le cortège parisien au micro de Nathan Bocard. Le récit maintenant d'une évasion qu'on qualifie toujours de rocambolesque, celle de Carlos Ghosn. Pour la première fois, l'ancien patron de Renault est revenu dans une interview à la BBC sur sa fuite du Japon fin 2019. De quoi inspirer, vous allez l'entendre, les plus grands scénarios d'Hollywood.
Je ne pouvais pas montrer mon visage. Il fallait que je me cache. Et la seule solution, c'était d'être dans une boîte ou un bagage. Pour aller à l'aéroport, on a dû prendre le train et les taxis. J'ai dû porter des vêtements que je ne mets jamais. Le moment le plus difficile était quand j'étais dans la malle, dans l'avion, avant le décollage. Ces 30 minutes d'attente ont été les plus longues de ma vie.
Carlos Ghosn dans son interview chez nos confrères de la BBC.
La route du Tour de France.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voie va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Victoire hier du porteur du maillot jaune, Tadej Pogacar, au col du Portet. Le Slovène a donc plus de 5 minutes d'avance sur son dauphin Vingegaard. Aujourd'hui, dernière étape de montagne, 130 km entre Pau et Luzardidène, avec l'ascension du terrifiant Tourmalet. Et cela n'est pas sans rappeler à Christian Laborde le récit d'un géant dont on ne prononce plus le nom. Vous devriez reconnaître de qui il s'agit.
Aujourd'hui, la terrible montée de Luzardidène. La route hercynienne de Luzardidène, les lacets rugueux de Luzardidène se souviennent du géant du Tour dont il est interdit de prononcer le nom. Il est le géant qui n'a pas de nom. Le 21 juillet 2003, le géant qui n'a pas de nom, maillot jaune sur le dos, attaque le pied de Luzardidène, flanqué de deux autres géants, Jan Ullrich et Iban Maillot. La foule est dense. Le guidon du géant qui n'a pas de nom se prend dans la musette d'un gamin et c'est la chute. Et dans sa chute, il entraîne Iban Maillot. Les deux se relèvent, attendus par Jan Ullrich. Les trois montent ensemble, parviennent à la portion la plus dure. À cet instant, le géant qui n'a pas de nom déchausse et la couille qui lui reste s'écrase sur la barre horizontale de son trek. La douleur le nique, mais le géant qui n'a pas de nom se rétablit et s'étant rétabli, attaque. Malgré la douleur dans le dos, malgré la burne en compote, il attaque à l'endroit précis où il avait prévu d'attaquer et l'emporte au sommet. Une journaliste s'approche de lui. « Quel plaisir trouvez-vous à rouler ?» Le géant qui n'a pas de nom lui répond « Je ne roule pas pour le plaisir, je roule pour la douleur. » Et de siffler fit ça une canette de coca.
La fenêtre sur tour de Christian Laborde, vous avez reconnu Stéphane, de qui on parlait.
Lance Armstrong.
Parfait. Départ de l'étape autour de 13h50. Emmanuel Macron sera d'ailleurs présent aujourd'hui dans la voiture rouge du patron du Tour, Christian Prudhomme. Ce sera à suivre sur RTL toutes les demi-heures à 12h50. Vous retrouverez Christophe Paco pour RTL chez vous. Et puis à 18h30, le club Jalabert. Voilà. Enfin en football, Benvenuto Donnarumma, le tout juste champion d'Europe italien et gardien de l'AC Milan, a signé son contrat hier et s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Celui qui a été sacré meilleur joueur de l'Euro s'est très vite exprimé sur les réseaux sociaux du club.
Bonjour à tous, moi c'est Gigio. Je suis très très heureux d'être ici et de faire partie de ce club. J'ai hâte de jouer et de tous vous rencontrer. Je vous embrasse, ici c'est Paris.
Ici, c'est Paris.
Donnarumma qui sera peut-être dans les cages du PSG pour le premier match du championnat de Ligue 1. La reprise, ce sera le 6 août avec un déplacement à 3. Hier, les Parisiens se sont imposés 4-0 face au Mans Club de National pour leur premier match d'avant-saison.
Merci Hortense. L'actualité, c'est quand vous le souhaitez, l'appli RTL. Vous allez cliquer, c'est tout simple. 7h37, bon réveil. Dans un instant, l'Angle Écho. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Ce matin, vous nous parlez d'argent.
Oui, on va parler d'euros, mais pas en monnaie sonnante et trébuchante. Ce matin, je vais vous dire pourquoi l'avenir de l'euro, c'est la monnaie numérique, les e-euros que la Banque Centrale Européenne va expérimenter.
Explication dans 50 secondes, à tout de suite.
RTL Matin jusqu'à 9h15.
Avec Stéphane Carpentier.
L'Angle Écho, comme promis, 7h38 avec Anaïs Bouissou et donc la Banque Centrale Européenne qui lance un projet pilote vers la création d'un euro numérique.
Oui, ça y est, l'Europe se lance dans la course aux monnaies numériques avec l'idée peut-être, dans quelques années, d'acheter ses légumes, ses vêtements, de régler ses factures en euros numériques via une application mobile ou avec des cartes de paiement en e-euro. On est au tout début du processus, une phase de recherche qui va durer 2 ans. Mais c'est un premier pas décisif salué par la France et l'Allemagne.
Alors pardon, mais c'est utile, ça va servir à quoi ?
Non seulement c'est utile, mais cette monnaie pourrait devenir indispensable à l'échelle mondiale pour lutter contre un phénomène qui fait frémir les États et les banques centrales, l'apparition des monnaies numériques privées avec leurs propres échanges, leurs taux, leurs propres règles, parfois opaques, hein, loin des régulations et des stabilités financières. Plusieurs monnaies parallèles donnent déjà des sueurs froides aux dirigeants.
Ah oui, lesquelles ?
Le Bitcoin, lancé en 2009 dans la panique de la crise financière à l'époque, qui est devenu en fait un outil spéculatif pour faire de l'argent, il est tellement volatile que deux simples tweets du milliardaire Elon Musk ont d'abord fait grimper, puis chuter drastiquement sa valeur. L'autre projet, celui qui a vraiment poussé en fait la Banque centrale à réagir, c'est celui de Facebook, le géant américain qui veut lancer sa propre monnaie virtuelle parallèle. Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs. Autant vous dire que ça a donné de l'élan pour cogiter sur une monnaie numérique.
Ah, c'est donc la concurrence des monnaies privées qui pousse l'euro numérique.
Oui, il y a une énorme crainte par rapport aux acteurs privés. Si l'un d'eux se glisse dans les failles des législations monétaires, s'il rassemble assez d'utilisateurs, c'est la stabilité des systèmes bancaires qui serait engagée. La Banque de France estime qu'il faut agir au plus vite, au moins pour créer une réponse juridique. Le gouverneur le dit, je cite, j'insiste ici sur l'urgence, il nous reste peu de temps, 1 ou 2 ans.
Anaïs, pour schématiser, c'est l'Europe face aux monnaies privées.
Pas seulement, ça c'est le premier enjeu, mais il y en a d'autres. C'est comme une course de petits chevaux, il y a les monnaies parallèles privées qui courent vite, qui sont agiles, qui peuvent surgir de nulle part. Et puis il y a d'autres catégories de chevaux, moins souples, mais très puissants. D'autres États, le cheval chinois qui galope avec sa monnaie yuan, le cheval américain avec le dollar. À la fin de la course, l'État, le cheval qui franchit la ligne d'arrivée numérique en tête, remporte un avantage considérable sur les échanges mondiaux.
Ouais, c'est une question de pouvoir.
Oui, à ce petit jeu, la Chine fait pour l'instant la course en tête. Sa monnaie, le yuan numérique, est déjà testée dans plusieurs grandes villes chinoises. C'est donc aussi dans les années à venir la capacité de l'Europe à garder son rang mondial de monnaie d'échange qui se joue physiquement aujourd'hui, numériquement demain.
On comprend bien l'intérêt pour l'influence mondiale et pour la stabilité du système, mais est-ce que vraiment les Européens, les Français seraient prêts à ces nouveaux usages ?
Mais si l'euro numérique fait la preuve de sa stabilité, de sa sécurité pour conserver les données personnelles, oui, c'est une monnaie d'avenir. D'autant plus que les usages changent, la crise sanitaire a accéléré les paiements sans contact et sans billets, et aujourd'hui, 70% des paiements sont dématérialisés. À l'avenir, l'euro numérique serait un complément à l'argent liquide et ce serait d'ici 4-5 ans rien de moins que l'étape la plus importante pour notre monnaie derrière la naissance de l'euro il y a 20 ans.
Tout est clair, l'anglais co-Anaïs Bouissou, 7h42, merci de nous accompagner ce matin sur RTL. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Votre invité face à vous ce matin.
Gérard Larcher, les sanctions contre les récalcitrants au vaccin font grincer quelques dents. Qu'en pense le président LR du Sénat ?
Un face-à-face à suivre à la radio et en images sur notre site via l'appli RTL sur votre tablettes et vos smartphones. À tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h43, Benjamin Sportouche, face à vous, un président ce matin, le président du Sénat.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors l'extension du pass sanitaire, eh bien ça fait parler, la droite est divisée entre ceux qui trouvent que c'est trop liberticide et ceux qui valident cette option. Et vous, qu'en pensez-vous Gérard Larcher, est-ce que ce coup de pression, ces contraintes étaient nécessaires ?
Nécessaire, c'est ce que j'ai dit à votre micro en novembre 2020, vaccination obligatoire si nécessaire.
Au grand jury, vous l'aviez dit, oui. Mais vous aviez dit vaccination obligatoire pour tous. Est-ce que là, quelque part, ce n'est pas une obligation déguisée ?
Le pass sanitaire est un levier qui doit nous conduire à ce fameux matelas vaccinal que certains situent au-dessus de 90%. C'est naturellement le pass sanitaire restrictif des libertés. Mais est-ce que la pire restriction des libertés, c'est pas de reconduire au confinement ? Est-ce que la pire restriction des libertés, ça n'est pas le couvre-feu ? Et donc, j'allais dire, faisons la balance entre avantages, inconvénients. Cette restriction, parce que c'est une restriction des libertés, elle devra se faire sous le contrôle du Parlement. En tous les cas, j'y suis favorable. Sous cette réserve.
Philippe Bas, par exemple, qui est questeur, que vous connaissez bien, questeur Les Républicains au Sénat, chez vous, dit que ce pass sanitaire ne doit être exigé que dans les lieux où les gestes barrières ne peuvent être respectés, pas pour les supermarchés, par exemple. Est-ce que ça va un peu trop loin
le
ou
débat
pas
et sans doute que la commission des lois choisira Philippe Bas pour être le rapporteur.
Il est plus réticent.
Dans la continuité de cela. Mais quand on voit à nouveau ce pic épidémique qui est en train de se faire, il ne faudrait pas non plus qu'en quelque sorte nous pénalisions ceux qui ont été vers le vaccin, ceux qui iront vers le vaccin, par rapport à ceux qui refusent absolument le vaccin. Donc vous avez compris, je partage et soutiens ce qui a été engagé par le président de la République. Nous avions été consultés au préalable par le gouvernement et moi-même par le Premier ministre. Et naturellement, ça doit être sous le contrôle du Parlement, parce que les libertés, ça relève du Parlement.
Donc ça sera voté par la droite, à l'Assemblée et au Sénat.
Nous le verrons, mais je pense, quand je regarde la réponse des présidents de groupe faite au gouvernement, qu'en tous les cas, c'est démarche sous la réserve du contrôle du Parlement.
Vous l'avez dit. Est-ce que les manifestations que vous avez vues dans la rue hier, quelques milliers de personnes, vous ont inquiété ? Est-ce que vous pensez
pas inquiété. Elles s'expriment, elles sont ce que je
au
constate...
Au nom de la liberté contre la dictature,
ce que je constate aussi, c'est qu'il faut être très attentif aux plus modestes, à ceux qui parfois sont les plus éloignés d'une forme de compréhension et de pédagogie. Et je le dis avec le plus grand respect, c'est vers cela qu'il va falloir aller pour leur dire que se vacciner, parce que se vacciner, c'est pas se protéger soi uniquement, c'est se protéger collectivement. C'est donc un acte de solidarité collective.
Mais est-ce que vous êtes encore aujourd'hui pour la vaccination obligatoire pour tous, point barre ? Est-ce qu'il faut y aller ?
Si nécessaire, je répète ce que j'ai dit, si nous voyons que c'est nécessaire, alors il faudra y aller.
À quelle date ?
Je pense que le pass sanitaire est un bon levier.
Mais il faudra faire le point, quoi, en début septembre ?
Non, non, ce sera trop tôt, parce que vous voyez le temps de la vaccination, mais c'est un sujet pour le dernier trimestre.
Pour le dernier trimestre, il faut se réinterroger sur cette vaccination obligatoire, nous dites-vous ce matin. Mais quand vous voyez aussi les sanctions qui vont être infligées aux patrons de bars, restaurants qui ne feront pas les contrôles nécessaires, eh bien ils risqueront 45 000 euros d'amende et un an de prison. Est-ce que vous trouvez ça légitime ou un peu excessif ?
D'abord, je comprends les interrogations des patrons de restaurants, de bars. Je comprends les interrogations aussi des acteurs culturels qui voyaient un peu la lumière et l'espérance et qui se disent on va être transformé en agent de contrôle. Mais le choix entre la fermeture à nouveau des lieux de culture, des restaurants ou la possibilité de les maintenir ouverts, de poursuivre leur ouverture grâce au pass sanitaire, ça mérite vraiment d'être mesuré. Et je leur dis, il va falloir que dans la loi, nous trouvions les bons équilibres. Et ça va être le sujet
du débat
parlementaire.
Mais il faudra faire moins, c'est-à-dire, ça vous paraît beaucoup, 45 000 euros d'amende en entrée ou pas ?
C'est un plafond d'abord.
D'accord,
c'est
donc on pourra la baisser.
C'est un plafond et nous verrons dans quelles conditions. C'est vraiment le rôle du Parlement.
D'accord. Alors, est-ce que ce coup de pression global du président était bienvenu quand vous voyez l'augmentation des vaccinations ? Vous dites oui, c'est ce qu'il fallait le faire.
Ben, d'abord, les vaccinations ont marqué un palier, pour ne pas dire... Je rencontrais des élus du sud de mon département qui me faisaient état que les rendez-vous avant l'annonce du président de la République avaient considérablement chuté. Ce que je vois, c'est que... Il y a eu un coup de booster depuis lundi sur les vaccinations.
Donc c'est la bonne méthode.
Et en tous les cas, c'était nécessaire de rappeler. Je crois que personne n'avait pris conscience de cette résurgence épidémique avec ce nouveau variant et que le vaccin protégeait. Vous savez, le vaccin, c'est une forme de liberté aussi. Et je pense, quand on parle beaucoup des libertés, la vaccination, c'est ce qui nous permet aussi d'être libre, de nous retrouver.
Et c'est un vétérinaire de profession qui le dit ce matin.
Oui, qui a connu quelques épidémiologies animales.
Exactement. Alors la réforme des retraites, on y vient aussi, parce que le président en a parlé, elle a peu de chances, très clairement, d'être engagée avant la présidentielle, puisque le président a dit qu'il faudrait que l'épidémie cesse pour l'engager. Est-ce que vous regrettez qu'elle ne soit pas engagée, qu'elle soit mise dans les cartons ?
C'est une réforme indispensable.
Il faut qu'elle se fasse d'ici la présidentielle ?
C'est une réforme indispensable. Je viendrai sur la date. Parce qu'en fait, soit on augmente les cotisations, soit on diminue les pensions, soit on joue sur l'âge. C'est ce triptyque-là. Évidemment, c'est un immense échec pour le président de la République. C'était sa mesure phare en 2017, la réforme systémique. On n'a rien bougé du tout. On a eu un projet de réforme avorté qui est toujours sous 49.3, qui était d'ailleurs incompréhensible pour les Français. Donc cette réforme, il va falloir qu'on la conduise. Il va falloir qu'on reprenne quoi ? D'abord le dialogue social. Je rencontrais le secrétaire général de la CFDT au début de cette semaine. C'est bien les sommets sociaux où on est écouté mais pas entendu. Il va falloir le faire avec le Parlement. La particularité de la préparation de la réforme dite Delevoye, en 2018 et 2019, c'est sans le Parlement.
Mais il faut le faire d'ici la présidentielle ou c'est trop tard ?
Il faut que les conditions soient réunies. C'est indispensable parce qu'on va être à 13 milliards de déficit du régime de retraite.
Donc vous nous dites que c'est un échec.
C'est un rendez-vous essentiel. Et non, ça traduit aussi... j'entendais le président lors de son intervention dans la deuxième partie nous parler du futur, mais son bilan, il est quand même assez mitigé. Regardez en termes de dépenses publiques. Mmh. Et je parle anti-Covid. Mmh. On avait fait plus 80 milliards. Une dette à 2200 milliards. En matière migratoire, et on s'apprête sans doute, malheureusement, à cause de la situation en Afghanistan, à avoir une deuxième vague migratoire. Échec aussi en matière de grandes réformes. On parlait des retraites, mais la réforme sur la dépendance. Et on a vu que cette réforme, elle était indispensable, avec la pandémie sur nos aînés.
Mais il a dit vouloir faire tout ça. Est-ce que c'est un président candidat que vous avez entendu, vous, lundi
soir ?
C'est
un candidat. C'est un candidat, mais il a dit que le bilan n'était qu'un socle. Alors le socle était trois.
Le socle est étroit. Mais vous l'avez vu partir en campagne pour vous. Alors, il y a aussi la campagne de la droite qui s'annonce. On se interroge si vous allez avoir un candidat ou pas. On a appris hier par le Figaro que vous alliez recevoir plusieurs candidats potentiels de la droite à la présidentielle mardi prochain. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Est-ce que vous nous le confirmez ? Est-ce que c'est bien mardi prochain au Sénat ?
Mardi prochain, ce ne sera pas au Sénat.
Mais ça sera mardi prochain au Sénat.
Ce sera mardi prochain. Vous savez, la victoire de la droite et du centre au régional et au départemental nous oblige. Pour ça, nous savons que nous avons la possibilité d'écrire un autre scénario que celui que vous décriviez matin après matin, qu'on était condamné en quelque sorte à un deuxième tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Pour ça, il faut qu'on ait un seul candidat, une seule candidate et une équipe pour la France autour de lui ou d'elle. C'est ce à quoi nous travaillons. Et je suis persuadé que dans la diversité de ces candidatures, eh bien, il y a la capacité à avoir le sens de l'intérêt général, et on va y arriver.
Sauf que Xavier Bertrand n'en sera pas.
Mais Xavier Bertrand, nous avons des contacts avec lui. Xavier Bertrand, il est en tête aujourd'hui dans les analyses d'opinion. Mais il n'est pas encore partagé qu'il soit le candidat qui s'impose. Et lui aussi, je sais qu'il a le sens profond des responsabilités.
Mais est-ce que vous lui dites ce matin, vous lancez un appel pour qu'il se rejoigne une primaire ?
Qu'on ne peut pas refuser l'alternance, notamment à celles et ceux qui souhaitent nous faire confiance.
Mais je n'ai pas compris votre choix, Gérard Larcher. Est-ce que vous voulez une primaire ou pas ? Est-ce que ça se décidera comme ça, avec Xavier Bertrand ?
Si nous n'avons pas, d'ici la fin septembre, c'est nous qui maîtrisons le calendrier, un candidat qui s'impose naturellement, qui forme l'équipe, eh ben on passera par une procédure. Et il y a déjà un rendez-vous sur nos agendas, le 25 septembre.
25 septembre, voilà. Oui, c'est-à-dire, à ce moment-là, vous verrez si quelqu'un est sorti du lot. Mais est-ce que Xavier Bertrand n'est pas déjà sorti du lot ?
Nous verrons d'ici le mois de septembre et je fais confiance. D'où l'importance du dialogue que nous aurons la semaine prochaine. D'où l'importance du dialogue que nous avons avec Xavier Bertrand.
Mais vous, est-ce que vous ne dites pas que ça va être un peu tard ? C'est quand la date limite pour avoir un candidat ? On peut attendre le mois de novembre ? Vous pouvez attendre le mois de novembre ?
Les dernières candidatures ont toujours été au mois de novembre. Donc ça ne pose aucune difficulté.
D'accord. Donc pour l'instant, Xavier Bertrand a un petit temps d'avance, mais ce n'est pas forcément votre candidat naturel.
Il faut qu'il devienne lui-même.
Je vous sens hésitant quand vous parlez
pas du tout
Bertrand.
Hésitant.
Non, mais je sens que vous avez peut-être une inclinaison pour lui et qu'on ne peut pas le dire.
Non, je n'ai pas d'inclinaison. Aujourd'hui, ma seule inclinaison, c'est d'offrir aux Françaises et aux Français une vraie alternative démocratique qui se substitue à ce tête-à-tête annoncé.
Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura un seul candidat de la droite ?
Il n'y aura qu'un seul candidat. Sinon, nous ne pouvons pas l'emporter et nous manquerions. Nous manquerions le rendez-vous avec les Françaises et les Français. Ils nous ont donné, en quelque sorte, dans les élections régionales et départementales, une responsabilité que nous devons assumer.
Donc, vous nous dites ce matin qu'il y aura un seul candidat. Qu'il n'y aura pas Xavier Bertrand et un autre candidat en plus.
D'abord,
ça, vous
c'est
en êtes
l'exigence
certain.
Pour l'emporter. Ouais.
C'est l'exigence pour l'emporter. Est-ce que Éric Zemmour est bienvenu dans cette primaire, si elle a lieu ?
Écoutez, chacun peut être candidat. Encore faut-il avoir les parrainages. Et puis, on verra.
Vous n'êtes pas sûr qu'il ait ses 500 signatures ?
Écoutez, on verra. On verra.
Vous en doutez ? Parce que certains d'entre vous, chez les Républicains, sont en train d'œuvrer pour cela. Est-ce qu'il incarne un courant de la droite ?
Nous connaissons les quelques-uns qui se sentent proches d'Éric Zemmour, ce qui montre la diversité à l'intérieur des Républicains. Mais très honnêtement, ça n'est pas ça le cœur, aujourd'hui, du choix que nous avons à faire collectivement.
Il incarne un courant de la droite ou pas, républicaine aujourd'hui ?
En tous les cas,
l'extrême droite ?
En tous les cas, non. Ce qu'il exprime est ressenti par une partie des Françaises et des Français, mais entre l'expression de ça et le port d'un projet, c'est autre chose.
Et donc vous lui dites quoi ce matin à Éric Zemmour ?
Je lui dis rien. Je lui dis qu'on peut tous être candidat à l'élection présidentielle.
Et dernière question, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, va être entendu demain par la Cour de justice de la République et probablement mis en examen. Si c'est le cas, est-ce qu'il peut rester au gouvernement, selon vous, Gérard Larcher ?
Je n'anticipe pas sur une décision. Personnellement, On parle toujours de la jurisprudence Balladur.
Ouais.
Moi, j'ai participé...
C'est-à-dire que si on est mis en examen,
j'ai participé au débat sur le nouveau code de procédure pénale. Je rappelle que la mise en examen ne lève pas la présomption d'innocence. Qu'on l'a remplacé, le mot « mis en examen », c'était le mot « inculpation », qui avait le mot « coupable ». Et personnellement, ce n'est pas, pour moi, une mise en examen qui conduit à ne plus participer à un gouvernement. C'est une décision qui appartient au président de la République et à lui seul. Et je vais vous dire, je suis clair, je ne souhaite pas qu'Éric Dupond-Moretti, si telle devait être la décision, demain, en tire des conséquences de cette nature, c'est-à-dire quitte le gouvernement. C'est au président de la République de décider, et à lui seul.
C'est clair. Merci beaucoup Gérard Larcher, bonne journée à vous.
Gérard Larcher, l'entretien du matin, merci à tous les deux. À suivre, vous avez une question, Cyprien Sini est là pour répondre. Les pourquoi de l'été, c'est dans une poignée de secondes, à tout de suite.
RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini.
Les pourquoi de l'été, nos auditeurs qui s'interrogent. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
On a tout type de questions à l'image de celle-ci.
Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 12 ans et je voudrais savoir pourquoi les grandes vacances elles tombent l'été.
Alors Aurélien,
question beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Parce qu'à la base, c'est pas pour faire bronzette, non. Dès le XIIIe siècle, en fait, alors que l'école n'est pas du tout obligatoire et que l'enseignement n'est pas uniformisé, le pape Grégoire II décide d'accorder un mois de vacances l'été pour que tout le monde puisse aller travailler dans les champs, faire les moissons. Et oui, c'est pour bosser, en fait. Parce que se nourrir l'esprit, eh ben c'est bien, mais se nourrir tout court, c'est encore plus important. Puis, en 1800, au XIXe siècle, collèges et lycées ne sont fréquentés que par la très grande bourgeoisie et l'aristocratie. Pas question, donc, d'aller faire les foins l'été. En revanche, du 15 août au 1er octobre, c'est la période de la chasse à cour. Et ça, c'est immanquable. Du coup, collèges et lycées ferment leurs portes pour que les grands bourgeois puissent prendre de grandes vacances du 15 août au 1er octobre. Puis, petit à petit, l'école va s'ouvrir, va devenir le fer de lance de la Troisième République, qui va harmoniser le système scolaire. Les instituteurs méritants, par extension, leurs élèves vont avoir droit à 15 jours de vacances dès le primaire. Et en partant de ces dates historiques, de ce calendrier de la chasse, eh ben, la période va de plus en plus être avancée. Et même différente d'une région à l'autre, figurez-vous. Car quand l'école devient gratuite, laïque et obligatoire, eh ben, ce sont les préfets qui fixent les dates des vacances d'été. Et elles ne durent qu'un mois. En 1922, elles passent à 6 semaines. Mais alors, c'est pas pour faire plaisir aux élèves non plus, non. C'est pour qu'ils aident à reconstruire le pays, toujours en manque de main-d'œuvre après 14-18. En fait, à chaque fois, c'est pour bosser. En 1938, c'est le Front Populaire qui, dans la foulée des congés payés de 36, ajoute encore 2 semaines de vacances scolaires à titre, je cite, expérimental. Donc là, on arrive à 8. Et visiblement, l'expérience a séduit. Et alors, sachez-le, on est même allé jusqu'à 10 semaines de vacances d'été. Oui, c'était entre 1961 et 81. Mais bon, 10 semaines d'un coup, ça faisait vraiment beaucoup. On a donc enlevé 2 semaines qu'on a mises à la Toussaint et l'hiver, histoire de rééquilibrer un peu les choses. Alors finalement, si les grandes vacances tombent en plein été, c'est au départ pas du tout pour que tout le monde profite du beau temps. Mais finalement, les choses sont vraiment pas si mal faites pour le coup. Hein.
Absolument, oui. Il a réponse à tout, c'est Cyprien Sini pour les pourquoi de l'été. À demain, bien sûr, Cyprien.
À demain.
Le temps, Marina, beaucoup d'eau sur l'est du territoire. Hein.
Oui, on a ces pluies soutenues qui s'étendent là en ce moment du nord des Alpes en remontant vers la Franche-Comté, la Bourgogne, Champagne, Ardennes, c'est là où il pleut le plus. D'une façon plus large, on a vraiment du temps perturbé du Grand Est en descendant jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes avec donc des averses, des orages. 10 départements placés en vigilance orange en raison de ces fortes pluies. Du risque d'inondation. Il s'agit de la Haute-Saône, du Jura, du Doubs, Meuse, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Ardennes, Marne et Aisne. Il a plu en 24 heures, l'équivalent de plus d'un mois de pluie sur les villes les plus touchées. Pour les autres régions, on va vers le mieux, donc en allant vers l'Île-de-France, pas d'averse. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, même chose pour le centre Val-de-Loire, le sud-ouest. Les éclaircies seront un petit peu plus belles cet après-midi sur le sud-ouest. Pour l'Île-de-France, peut-être que la Seine-et-Marne aura quelques averses. Mais bon, pour Paris, on n'aura pas les pluies qu'on a eues ces derniers temps. Et puis pour avoir du soleil, direction la Manche, la Bretagne, l'Atlantique et la Méditerranée. Mais en Méditerranée avec du vent. Et côté température, ça remonte, sauf à l'est, évidemment, où c'est encore frais vu le mauvais temps. 18 à Besançon, 20 à Grenoble. Mais 22 à Lille, 25 à Paris et 30 à Montpellier.
L'anticyclone, il rentre de vacances ce week-end?
Oui, il arrive par l'ouest. Il arrive tout doucement, mais il arrive.
Il a traîné, lui.
Hein. Ouais, il a traîné.
Ah,
il est en vacances.
Feignant. 8h, bienvenue à tous.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et l'actualité, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, un coup de pouce pour vos vacances, le prêt à voler d'Air France.
Un nouveau système pour éviter les contrôles interminables à l'aéroport, notamment avec l'extension du pass sanitaire. On vous explique tout dans un instant. On va parler aussi de la météo détestable de ce mois de juillet. Nous serons à Strasbourg, où le Rhin est en crue. À suivre également les 2 plus beaux hôtels d'Annemasse privatisés par les Émirats Arabes Unis. Et puis l'angoisse à l'hôpital français de Kaboul, alors que les talibans progressent.
RTL Matin.
Si vous faites partie des stressés des vacances, si des formalités à l'aéroport vous angoissent, si désormais vous avez peur d'être retardé par le contrôle du pass sanitaire, écoutez donc cette bonne nouvelle. Air France lance demain son service Ready to Fly, prêt à voler, et c'est votre information RTL. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
C'est tout simple, hein, il suffit d'anticiper un peu.
Oui, Air France proposera à ses passagers d'envoyer leurs documents sanitaires 3 jours avant leur vol. Pass sanitaire, test négatif ou encore document d'entrée dans le pays de destination. La compagnie se chargera de vérifier si tout est en règle et si c'est le cas, vous n'aurez plus qu'à présenter votre simple billet d'avion à l'embarquement. Il portera la mention « Ready to fly », « Prêt à voler » en français. Il n'y aura donc plus de stress à l'embarquement puisque tout aura déjà été vérifié avant et cela apportera plus de fluidité. Ce service sera proposé aux passagers qui partent de Paris pour la Corse ou l'Outre-mer. Si un des documents n'est pas bon ou manquant, Air France vous préviendra également, ce qui évitera un refus d'embarquement. Cette nouvelle solution n'est pas obligatoire mais sera déployée sur d'autres destinations tout au long de l'été.
Et pour les trains, les autocars, Arnaud, comment ça va se passer ?
Eh bien, pour monter dans un train, vous n'échapperez pas au contrôle manuel du pass sanitaire à l'embarquement. La SNCF travaille sur un système similaire à celui d'Air France, mais il ne sera pas disponible pour cet été. Il faudra donc présenter un billet et le pass. Par ailleurs, on ne sait pas encore qui vérifiera les documents sanitaires. En plus des titres de transport, contrôleurs, personnel supplémentaire, rien n'est acté pour l'instant, mais les discussions se poursuivent avec le gouvernement. Pour les autocars, c'est la même chose. Flixbus et Blablacarbus n'ont pas encore reçu de signe clair de la part des autorités, mais devront effectivement contrôler les passagers à bord.
Information RTL signée Arnaud Touche.
Le pass sanitaire, outil désormais indispensable du quotidien, ça suscite des réactions, disons Isabelle, contrastées.
Oui, pour certains, c'est une contrainte insupportable, une privation de liberté. Alors ceux-là ont manifesté hier dans toute la France. Ils étaient environ 20 000, répondant à des appels sur les réseaux sociaux. Les rassemblements ont dégénéré ici et là. À Annecy, à Bourg-en-Bresse, la cour de la préfecture a été envahie par des contestataires. Pour d'autres, l'extension du pass sanitaire, c'est juste le coup de pouce qu'il fallait pour accepter la vaccination. Depuis lundi soir, le site Doctolib est pris d'assaut, les rendez-vous s'arrachent et même sans rendez-vous, on y va. À Strasbourg, un centre de vaccination éphémère avait été installé hier dans le centre de la Bourse pour capter le public venu pour le feu d'artifice. Bon, finalement, le feu d'artifice a été annulé, mais 600 personnes ont été vaccinées, ce qui réjouit le docteur Alexandre Fels, l'adjoint au maire chargé de la santé.
Il y a des gens qui sont hésitants, il y avait beaucoup de gens qui disaient on attend, on ne sait pas, on doute quoi. Et là, ben, le fait qu'il y aura des contraintes pour accéder aux loisirs de façon large a fait basculer des gens, en fait, qui n'étaient pas contre les vaccins, mais ils n'étaient pas vraiment pour. Et donc ça, c'est vraiment très bien, parce qu'on fait une course hein, contre le variant, notamment Delta. Il faut prendre le temps d'expliquer, de rassurer, parce que c'est une population un peu différente. Hein. Ils ne sont pas acquis à la vaccination, donc on prend le temps. Donc c'est une nouvelle phase de la vaccination qui s'ouvre et qui va durer jusqu'à la rentrée.
Alexandre Fels, adjoint au maire à la mairie de Strasbourg. Lui, il dénonce la tyrannie des dernières mesures sanitaires. Florian Philippot est candidat à la présidentielle sur une ligne souverainiste. L'ancien numéro 2 du Front National l'annonce dans le Figaro.
Et puis Isabelle, n'ayons pas peur des mots, on en parle depuis ce matin. C'est un mois de juillet pourri.
Oui, un temps pareil en juin, en juillet, c'est tout à fait inhabituel. Le niveau des précipitations est 25% au-dessus de la normale. Ce matin, 10 départements sont toujours en alerte aux pluies et aux inondations dans l'Est. Et de fait, Yannick Collant, le niveau du Rhin a de quoi inquiéter.
135 bateaux entre Bâle et Lauterbourg, oui, qui sont arrêtés.
Sur ces écrans, Claude Valter voit la situation en temps réel sur le Rhin. Tous les bateaux qu'il a fallu arrêter, le fleuve est trop haut pour passer.
Les écluses en soi sont des ouvrages de franchissement, donc ils n'ont vraiment pas trop le choix. Ils sont arrêtés, point final, quoi.
Habituellement, le Rhin est en crue au moment de la fonte des neiges. Là, c'est la pluie qui s'abat sans discontinuer sur la Suisse, l'Allemagne et la France qui provoquent cette situation. Vincent Steimer, directeur des unités territoriales de Voies navigables de France à Strasbourg.
C'est une crue importante quand même. On a eu un premier pic de crue la semaine dernière qui était de l'ordre de 3000 m3/s. Là, on est en train de vivre un deuxième pic de crue qui passe actuellement à Strasbourg avec des débits de l'ordre de 3800. Et on a encore une troisième onde de crue qui nous arrivera entre le 16 et le 17 juillet, qui, elle, aujourd'hui, est prévue à une pointe de 4000 m3/s. Donc ce sont des débits qui sont 4 fois supérieur au débit normal du fleuve. On a mis en place des équipes de surveillance jour et nuit pour effectivement surveiller ces digues, relever les hauteurs d'eau et voir si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de désordre.
Et si l'eau continue de monter, le polder d'Erstein pourrait être activé. 700 hectares de forêt qui seront inondés pour stocker 7 millions de mètres cubes d'eau.
Yannick Collin, correspondant d'RTL à Strasbourg. L'autre correspondant d'RTL dans l'Est, Samuel Goldschmidt, nous signale que la ligne SNCF entre Thionville et le Luxembourg est coupée à cause des intempéries. Et puis en Allemagne, les inondations ont fait 4 morts et plusieurs disparus. On vient de l'apprendre.
Et tout ça, ça fait beaucoup de fraîcheur et beaucoup de pluie, évidemment. On en reparlera avec nos invités tout à l'heure à 8h20, ce mois de juillet très humide. Quelles sont les conséquences? Alors d'abord de nos consommations, on sera avec Yves Puget, directeur de rédaction du magazine LSA, et puis avec Emma Aziza, elle est hydrologue, donc toute cette eau, les conséquences. 8h06, restez là dans un instant. La ville d'Annemasse en Haute-Savoie, squattée par les Émirats Arabes Unis. On vous explique après ça. Annemasse en Haute-Savoie, où la famille royale des Émirats Arabes Unis crée le scandale.
Oui, l'été, elle s'installe dans de somptueuses villas sur les rives du lac Léman. Et pour loger son personnel, cet été, elle a réservé pour 2 mois les 2 plus beaux hôtels de la ville. 200 chambres bloquées pour tout juillet-août, Serge Puyot.
Lorsqu'on appelle le Novotel d'Annemasse, qui comprend 102 chambres.
Novotel Annemasse, Nicolas, à votre service. Bonsoir.
Je voulais réserver une chambre pour fin juillet. La réponse tombe comme un couperet.
Alors, pour fin juillet, c'est pas possible, nous sommes complets jusqu'à 1er septembre.
Tout l'établissement est en effet réservé pendant 2 mois par les Émirats Arabes Unis, comme l'hôtel Mercure de la commune voisine de Gaillard, afin d'accueillir le personnel au service de la famille royale qui possède des villas dans le secteur. Une situation qui scandalise le maire d'Annemasse, Christian Dupessé.
Qu'un État puisse décider de privatiser 2 hôtels dans une agglomération au moment où commence une saison touristique, c'est quand même choquant. C'est le principe même. Parce qu'on a de l'argent, on peut se permettre d'occuper un espace qui normalement est ouvert à tout le public. Pendant 2 mois, tous les touristes seront privés des 2 plus beaux hôtels d'Annemasse. Ils sont privatisés au profit d'Abu Dhabi, ce qui n'est pas très démocratique.
Contacter le groupe Accor, propriétaire des 2 hôtels, n'a souhaité faire aucun commentaire.
Serge Puyot à Annemasse pour RTL. On en parlait dès hier sur cette antenne. La France appelle tous ses ressortissants à quitter l'Afghanistan. Avec le départ des troupes américaines, la situation devient trop instable. Les talibans gagnent du terrain partout. Alors pour l'instant, la capitale Kaboul est épargnée par les combats. Mais à l'hôpital français, on s'inquiète. Hôpital créé en 2006 par le chirurgien cardiaque Éric Chesson.
Les nouvelles sont très inquiétantes. Mais nous-mêmes, à l'hôpital français de Kaboul, on continue à opérer. On a un afflux considérable de patients venant de toutes les zones et aussi d'ailleurs de zones tenues par les talibans. Et nous, on soigne tout le monde. Et notre but, pour l'instant, c'est de continuer. Et c'est pour ça que nous avons formé des Afghans, nous avons formé les équipes afghanes et que j'espère ils pourront continuer. Mais bien entendu, tout ça dépendra de la logistique. Y aura-t-il encore les avions? C'est la grande discussion de l'accessibilité de l'aéroport pour les médicaments, pour tout ça. Donc c'est extrêmement inquiétant.
Le docteur Éric Chesson, joint pour RTL par Émilie Beaujard.
Le Tour de France, c'est une certitude, le patron c'est Pogacar.
Le Slovène en jaune a remporté hier la 17e étape au col du Porté, sans doute l'étape la plus difficile de cette grande boucle. Aujourd'hui, dernière étape de montagne entre Jurançon et Luzardiden, en passant par le Tourmalet. En plus du maillot jaune, Pogacar pourrait en profiter pour rafler le maillot à pois du meilleur grimpeur.
Tour de France 2021.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
Très bien. Pogacar, vainqueur d'étape, Pogacar, maillot jaune, Pogacar, c'est le plus fort, mais c'est le calcul d'épicier de ses adversaires qui doit quand même agacer un peu.
Absolument, je suis complètement d'accord avec vous, Christian. Il n'est pas attaqué, Pogacar, pas comme on devrait l'être, un maillot jaune, si on souhaite en tout cas lui ravir sa tunique. Depuis le départ, il a fait ce qu'il fallait en essayant de creuser les écarts dès la première semaine. Il a sapé le moral de tous ses adversaires qui rapidement se sont dit on ne pourra pas le battre. C'est un aveu d'impuissance. On se range déjà du côté des battu, on essaie de faire des comptes d'apothicaire et on essaie de se gérer les bonifications, les attaques, les retours, les contre-attaques entre les 10 premiers du classement général pour la distribution des places d'honneur. Que dans ce contexte-là, et Pogacar est loin d'être bête, il a bien compris qu'avec cette avance, s'il courait assez justement, il pouvait s'en sortir et qu'il pouvait même rallier Paris sans être trop inquiété. Bien sûr qu'il pouvait être en forme, mais on l'a encore vu hier. Pogacar, dans la dernière montée, c'est lui qui a attaqué. Le second du classement général n'a jamais porté d'attaque. Et Carapaz a porté une attaque juste pour distancer celui qui pouvait lui faire de l'ombre pour une place sur le podium à la personne du jeune Vingegaard. À ce rythme-là, eh bien, ils ne sont pas prêts de le battre sur un Tour de France.
On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de la dernière journée pyrénéenne. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, messieurs Laurent Jalabert et Christian Olivier. Un mot du foot pour terminer. C'est fait. Le gardien italien Gianluigi Donnarumma arrive au PSG. Un contrat de 5 ans jusqu'en 2026. Belle prise pour Paris avec ce champion d'Europe qui a été sacré meilleur joueur de l'Euro. Et en plus, pas d'indemnité de transfert. Il était libéré par le Milan AC.
Super gagnant, les patrons du PSG, évidemment. Bref. Merci Isabelle Choquet. Je complète ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la situation des inondations à la fois chez nous en France, mais aussi chez nos voisins. Nous en sommes à 2 morts en Belgique et désormais en Allemagne. 4 personnes tuées et plus d'une cinquantaine de portées disparues. Violentes pluies et inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne où 6 maisons ont été emportées dans une rivière. On va y revenir bien sûr dans RTL Matin. Il est 8h13.
RTL, les jeux sont faits.
Les jeux sont faits.
À l'approche des JO de Tokyo, c'est dans 8 jours maintenant la cérémonie d'ouverture. On avait envie de revenir sur les jeux d'avant du passé pour savoir si l'événement planétaire a laissé des traces dans les villes organisatrices et surtout si elles ont pu surfer sur le rendez-vous. Londres, par exemple, c'était il y a 9 ans déjà. Les jeux restent gravés comme un moment de fierté nationale et l'impact sur la capitale anglaise est toujours en voie de développement. Marie Billon, on se promène donc avec vous dans les rues de Londres.
Des tours de verre, des cafés et des restaurants branchés, une voirie en parfait état. Stratford est tout neuf et ça se voit. Nous nous promenons dans l'ancien village olympique devenu quartier résidentiel avec Nicolas Bossetti, chercheur au centre de réflexion Center for London.
Si on faisait la même marche ensemble il y a une vingtaine d'années, déjà c'est pas sûr qu'on puisse la faire parce que c'était beaucoup d'espace industriel. Traitement des déchets, réparation de taxis, ça a complètement changé avec le projet olympique puisque l'idée était de créer un quartier complètement nouveau.
1,8 million de mètres carrés entièrement transformés pour y installer des logements, 33 000 d'ici à 2036, l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe et un parc, le parc Elisabeth II, plus grand que le premier arrondissement de Paris. Stratford est devenu un quartier prisé et a changé complètement l'image de l'Est de Londres.
On a eu un phénomène de boboisation ou de gentrification. Les personnes qui habitent ici aujourd'hui ne sont pas les personnes qui habitaient ici il y a 10 ou 20 ans. Donc même si, quand on regarde les statistiques, la qualité de l'enseignement et des écoles a augmenté, c'est très difficile de savoir si vraiment les résidents qui habitaient ici, avant, ont ressenti un impact positif.
La transformation de l'Est de Londres a ses critiques, mais ceux qui vivent dans l'ancien village olympique profitent des nouveaux bureaux qui ont été construits. L'équivalent de la RATP, par exemple, vient de s'y installer et c'est possible en partie parce qu'une nouvelle gare a été construite en 2009.
Alors, on est juste à côté de la gare de Stratford International, qui est sur la ligne à grande vitesse, qui relie Londres à Paris et Bruxelles, qui a été construite pour offrir un lien direct du continent vers le village olympique. Après, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, les Eurostars ne s'arrêtent pas ici. Ils vont directement au centre de Londres, à Saint-Pancras. Donc on se retrouve avec une gare internationale qui n'a pas en fait, de service international.
Avant la pandémie, environ 2,8 millions de passagers utilisaient cette gare chaque année, notamment pour prendre le Javelin. Ce train à grande vitesse qui devait emmener les spectateurs de la gare Saint-Pancras au stade olympique et qui maintenant dessert aussi une partie du sud de l'Angleterre. Le métro suspendu, le DLR, arrive aussi à Stratford depuis 2011. Il est donc facile de venir ici pour profiter des pubs flambant neufs comme ceux installés sur la rue nommée Victory Parade, la parade de la victoire. Le long de cette voie piétonne, à droite, il y a des établissements branchés et à gauche, un petit étang avec nénuphars et canards.
Les JO ont généré beaucoup de tourisme, ce qui signifie plus d'argent dans les poches des commerçants. Ça crée des revenus. Les JO ont aussi déclenché de l'investissement dans les infrastructures dans le quartier. Et ça fait que maintenant, c'est un endroit très charmant.
Des investissements, en effet, estimés à 25 milliards d'euros d'ici à 2025. Et ce sont les Londoniens qui paient la note en partie.
On contribue en payant nos impôts. À l'époque, je trouvais que ça nous coûtait cher. Mais si on regarde vers l'avenir, qu'on pense à ce que ça a apporté aux jeunes, à tout le monde, ça a apporté du changement positif dans tout Londres. Ça nous a laissé de bons complexes sportifs.
Le stade olympique est désormais la maison du club de foot de West Ham. La piscine est ouverte à tous au prix d'un bassin public classique. Le vélodrome est très visité, de même que la Cooper Box, utilisée par les communautés locales pour de la gym et des sports d'équipe. Richard Brown a travaillé pour l'organisme en charge de la gestion de l'héritage des JO de Londres.
C'est devenu un endroit où aller, pas que pour les complexes sportifs. Le Victoria and Albert Museum ouvre une branche. L'Université des Arts de Londres, l'école de la mode aussi, la BBC.
Sans les Jeux Olympiques, les Londoniens n'en doutent pas, rien de tout cela n'aurait été possible. Pourtant, se souvient Antea, l'une des milliers de volontaires en 2012, les Anglais n'en voulaient pas des JO, ils ont depuis bien changé d'avis.
On était tous très fiers de ce qu'on avait accompli. La ville était remplie de monde, il y avait des drapeaux partout. C'était un vrai spectacle, les Londoniens s'en souviennent avec fierté.
Des Londoniens grognons à la foule enthousiaste, Antea l'explique par la magie du sport. sport, mais aussi par le fait que les JO ont eu lieu partout dans la capitale. Et ce n'est pas tous les jours que Buckingham Palace devient la ligne de départ d'un marathon ou qu'on joue au beach volley à quelques mètres de Big Ben et de Downing Street.
Marie Billon, les Jeux sont faits à Londres ce matin, 9 ans après, donc alors que c'est le Japon et Tokyo en particulier qui accueillent les JO dans 8 jours maintenant. 8h18, on s'intéresse dans un instant aux caprices de la météo. Ça n'a échappé à personne et ça a des conséquences. Nos deux invités nous rejoignent après ceci.
RTL Matin jusqu'à 9h15
avec Stéphane Carpentier.
8h19, on avait envie donc de parler du ciel ce 15 juillet, de ses caprices, car ça vous a pas échappé. Surtout si vous avez la chance d'être en vacances, la météo n'a vraiment rien d'estival. Sur quoi? 90% du territoire, la Méditerranée a du bleu, mais ailleurs c'est gris, c'est frais, c'est très humide. Et ça a des conséquences sur nos sols, sur les cultures et sur notre quotidien. Pour en parler, pour aller plus loin, Emma Aziza, hydrologue, est connectée. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Yves Puget est en studio en direct, journaliste, spécialiste des questions de consommation, directeur des rédactions du magazine LSA. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Depuis la mi-juin, la météo est exécrable sur une bonne partie du pays. Non seulement il fait froid, je le disais, mais en plus il pleut beaucoup. Dans l'est de la France, il est tombé ces derniers jours l'équivalent d'un mois de pluie. Idem dans le centre, c'est pas mieux dans le nord, sur les Alpes, et c'est pas complètement terminé. Emma Aziza, on pense immédiatement à nos cultures qui souffrent habituellement en cette saison plutôt de la sécheresse. Là, l'excédent de pluie, ça a des conséquences?
Oui, ça a des conséquences, notamment cet excès d'eau en fait va avoir une humidité qui va être vraiment surabondante et qui va être nuisible dans les sols. Donc cette eau en surface dans les sols va avoir un impact notamment d'asphyxie des racines des plantes cultivées. Ça va diminuer par exemple l'effet des fertilisants dans le sol, ou encore vous avez une impossibilité de circuler en fait avec les machines parce qu'il y a des enlisements. Donc il y a vraiment un impact sur tout le monde agricole.
Ça veut dire c'est engorgé, c'est ça? C'est à ras-bord?
Exactement, les sols sont complètement saturés. Alors, on va parler de deux types de sols. Il y a ceux qui sont totalement inondés, et on a actuellement des inondations majeures, que ce soit par les pluies diluviennes qu'on a eues au mois de juin, on voit qu'on a des états de calamité agricole, ou bien le fait qu'on ait juste trop d'eau. Le trop d'eau, en fait, ne convient pas non plus au sol, même si effectivement, on avait des territoires qui étaient plutôt assoiffés ces 5 dernières années. Là, on bascule de l'autre côté, et effectivement, ça a des conséquences importantes sur l'activité agricole, ou encore, vous voyez, sur le développement de mildiou, dans les donc de maladies en fait qui vont se développer dans les milieux agricoles.
Concrètement, Emma Aziza, quel genre de dégâts ça engendre cette pluie et cette grosse quantité de pluie justement? Ça fait pourrir les plantes, ça fait pourrir les futurs fruits, les futurs légumes?
C'est ça. Ça va avoir. Alors, tout dépend des types de plantes, des types de sols, du niveau de dégâts et d'enjeux. Ça dépend notamment de ce qui se passe au-dessous. Vous avez des nappes phréatiques qui sont situées sous le sol, et leur interaction avec le sol va changer en fonction de la forme de la nappe. Vous voyez. Donc en fait, c'est quelque chose qui va être extrêmement varié. Vous avez déjà des états de calamité agricole sur les exploitations de melons dans le sud de la France. Donc, en fait, tout dépend, si vous voulez, le niveau d'exposition, mais on va avoir des impacts très forts.
Restez avec nous, Emma Aziza, s'il vous plaît, hydrologue. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent. Je me tourne vers Yves Puget. Ce temps pourri, ça a un impact direct sur la consommation?
Ah, direct. Mais alors, j'ai regardé les chiffres. Il y a un impact très, très fort dans les cas de très forte chaleur. Mmh. En revanche, il y a une érosion de certaines ventes lorsqu'il ne fait pas beau. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, avec le mauvais temps, l'épicerie sucrée se porte bien. Pourquoi? Parce qu'on fait plus de gâteaux à la maison. Il est évident que les ventes de jeux de société se porte bien, que la décoration d'intérieur se porte plutôt bien. Et on s'aperçoit qu'en général, en dehors des années de Covid, donc cette année ne sera pas la même chose, lorsqu'il fait mauvais, les Français vont plus fréquemment en magasin parce qu'ils ont du temps à perdre. Aujourd'hui, malheureusement, avec la pandémie, ils essayent de faire des courses moins fréquentes et plus courtes.
Ça veut dire quoi? Qu'en ce moment, on mange concrètement du chocolat plus que des glaces? Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir acheté un cornet encore.
Hein. Oui, les ventes de thé, d'infusion marchent très bien. Oui, il y a vraiment... Les tablettes de chocolat aussi. Ouais. Voilà, avec le petit café. Après, on prend un petit carré de chocolat. Donc, là où certains étés, lorsqu'il y a canicule, on voit des envolées. Je pourrais vous dire que certaines années, on voit du 160 70% sur les insecticides, sur les produits solaires. Alors les glaces, c'est du plus 70%, les glaces en vrac, du plus 80%. Ben là, cette année, ils sont à moins quelque chose.
Ouais, on me soufflait que, par exemple, en ce moment, les Français, ils achètent des légumes surgelés, vous savez, coupés en petits morceaux, plutôt qu'aller sur les marchés, parce qu'il pleut, on n'a pas envie d'aller acheter des produits frais sur le marché. Quoi.
Ben, on peut parler des magasins, mais je crois que la situation est pire pour les gens sur les marchés. Mmh. Effectivement, on peut penser à eux, un petit clin d'œil au marché de Préfailles, en Loire-Atlantique, par exemple. mais également tous les restaurateurs, tous les cafetiers, les terrasses, ils ont besoin de rebondir, ces entrepreneurs, ces acteurs de l'économie. Mais malheureusement, ben on va pas s'asseoir en terrasse quand il pleut.
Emma Aziza, je reviens vers vous. Globalement, pour les nappes phréatiques, vous savez, on dit toujours c'est tout bon pour les nappes phréatiques. Là, ça fait un peu de bien ou c'est complètement plein déjà, il y a plus besoin, il faut arrêter.
Alors, effectivement, une grande partie de la France, vu toute la pluie qui est tombée au mois de mai, au mois de juin et là, sur cette première quinzaine de juillet, effectivement, beaucoup de sols sont totalement saturés en eau. Donc, je pense que là, on est bien au niveau des nappes phréatiques sur une grande majorité de la France. Il y a quand même des zones, attention, qui ont vécu des sécheresses sévères les années précédentes et qui sont encore en phase de crise. Je pense notamment à la Haute-Garonne et tout le pourtour méditerranéen et PACA ont vraiment reçu très, très peu de pluie, à l'inverse. Et donc là, on sait que ce sont des nappes phréatiques qui sont très, très sollicitées par l'afflux touristique. Donc, il y a quand même une zone de danger de sécheresse en France. Mais par contre, elle est très, très limitée, contrairement à ce qu'on a pu vivre avec les sécheresses historiques de ces quatre dernières années, qui concernaient plus de 90 départements en France.
Ouais, c'est colossal. Yves Puget, Emma Aziza parle du tourisme, justement, sur les côtes en ce moment. C'est pas Bermuda Tong. On est plutôt habillé en mode Toussaint. Là aussi, sur le secteur vestimentaire, ça a un impact.
Ah, c'est pas bon. D'abord, c'est pas bon pour les soldes.
Les soldes.
Tout simplement, les soldes, ça va être encore catastrophique. Alors, ça fait des années, malheureusement, que le textile est en régression. Ça fait plus de 10 ans, mais ce sera inquiétant. Mais la consommation, il y a du rationnel et de l'irrationnel. Le rationnel, il pleut, vous ferez pas un barbecue. C'est du rationnel. L'irrationnel, je crois qu'on a besoin d'optimisme. L'optimisme, ça peut être quoi? Ça peut être le soleil, bien évidemment. Donc ça nous pousse à consommer, à sortir, donc à faire un barbecue, par exemple. Et puis, l'irrationnel, c'est quoi? Si les Français avaient gagné l'Euro de football, serait créé une émulation commune et on a souvent entendu dire, ça n'a jamais été prouvé, mais que lorsque la France gagne un grand championnat du monde ou d'Europe, c'est à peu près 0,3-0,5 points de croissance du PIB. Donc je croise les doigts, il faudrait qu'il fasse beau
fois.
Et que les JO, les Français nous rapportent beaucoup de médailles.
Ça serait pas mal. C'est un peu de salle de ambiance en ce moment, Emma Aziza. Hein. Est-ce que la professionnelle que vous êtes est inquiète quand on voit l'énorme écart, le fossé même, entre les grandes chaleurs qu'on observe au Canada ou dans le nord de l'Afrique et les températures anormalement froides qu'on observe chez nous en ce moment?
Oui, il faut bien comprendre que on est en fait dans une masse d'air froide, totalement isolée, entourée de masses d'air chaudes tout autour. Vous avez des records historiques en Sibérie, en Scandinavie, on a vu les températures exceptionnelles que l'on a vécues au Maroc, en Espagne. En fait, ça brûle partout, et puis vous avez un petit air froid, clos, qui est situé sur la France, la Belgique, et qui génère ce qu'on appelle une goutte froide. Donc en fait, ça va générer en permanence, en fait, des nuages pluvio-orageux. Donc vous avez ces pluies exceptionnelles qui peuvent être d'ailleurs catastrophiques quand elles sont diluviennes. Mmh. On l'a vu, rappelez-vous, il y a quelques semaines sur la ville de Reims. Et là, on voit qu'on a carrément des territoires totalement saturés en eau. L'eau ne peut plus pénétrer. Donc en fait, ça génère des inondations majeures. On en a là actuellement en Europe, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Suisse vivent des inondations colossales entre aujourd'hui et hier. Donc, vous voyez, on a d'un côté cette petite zone qui vit un air froid où on a l'impression que finalement il n'y a pas de changement climatique, tout va bien. Et puis de l'autre côté, vous avez des dômes de chaleur avec des canicules successives. Il faut faire attention parce que ça peut nous concerner demain. En fait, oui. Les prévisions saisonnières de Météo France prévoyaient pour les 3 prochains mois du plus chaud et du plus sec. On s'est trompé tout simplement parce que ces gouttes froides, on n'arrive pas à les prévoir dans les modélisations. Donc on ne les a pas vues venir, mais elles sont là très localisées. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un impact du changement climatique, justement.
Merci de nous avoir accompagnés, Emma Aziza, hydrologue. Yves Puget, j'imagine qu'en ce moment, on rallume le chauffage. Ce n'est pas bon pour les ventilateurs dans les magasins ou pour les
climats. Ah, là, c'est une catastrophe pour les ventes. Mais la météo, je ne suis pas un spécialiste. On ne sait pas ce que nous réserve fin août.
Il ne faut pas pronostiquer en termes de météo. Merci à vous, directeur de rédaction du magazine LSA, d'avoir été en direct ce matin. 8h28, restez là. Toute l'actualité, bien sûr. Et puis le ciel avec Marina.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Elles nous font rire sans modération, 15h30, 18h07, jour sur 7, les grosses têtes. Laurent Ruquier avec cet été le meilleur de la saison et la peur de l'avion.
Avant de partir, il fallait que je fasse un truc, il fallait toujours que je sois serein dans ma vie. Donc s'il y avait des problèmes à la banque, il fallait que j'appelle la banque pour avoir un accord sur mon découvert avant que je revienne. Il fallait que je parte, que quand l'avion soit
serein.
Je me dis, si jamais je reviens pas, j'aurai tout réglé.
Ah oui, là tu pars serein.
Faut mignon. Être con pour régler un découvert à la banque si tu reviens pas. Franchement.
Il y a une fois où vraiment il y a eu des gros pépins techniques.
Des énormes turbulences très très fortes. Et à l'époque, il y avait encore les écrans de télévision centraux, c'était des tubes cathodiques là. Et ben la force de la turbulence a fait décrocher les écrans sur la tête des gens.
Les écrans sont tombés sur la tête des gens.
Et puis ça
chacun pouvait faire le présentateur avec la tête dans l'écran.
Et ça c'était la première frayeur, je me suis dit si.
Et jamais... vous êtes attaché aussi dans ces cas-là.
Ah oui, bah oui.
Bah oui, quand même.
Non, on continue le service, on dit vous voulez du café.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, 2h30 de plaisir à partir de 15h30 cet après-midi. Le ciel, Marina, c'est encore compliqué. Hein.
Oui, on a cette fameuse goutte froide qui est toujours là et les pluies continuent, stagnent au même endroit. Des Ardennes à la Bourgogne, au sud de la Franche-Comté jusqu'au nord des Alpes, c'est là où il pleut le plus. Facteur aggravant, c'est que ça arrive 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent. Les sols sont saturés, l'eau s'infiltre pas, il y a les coulées de boue, les racines des arbres n'ont pas de prise au sol en plus, donc ils tombent facilement. D'où les problèmes sur de nombreuses régions. Ça va un peu mieux sur l'Alsace et la Lorraine dans le sens où il y a moins d'averses, mais il y a quand même des averses. En gros, le mauvais temps, c'est du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sur ces zones-là qu'on aura un temps pluvieux toute la journée, voire orageux. En allant vers la Méditerranée, vous avez encore du soleil, mais le vent est toujours d'actualité. Et pour les autres régions, c'est largement mieux dans le sens où vous avez quasiment plus de pluie. Ce sera un ciel variable partagé entre nuages et éclaircies. Des éclaircies de plus en plus belles au fur et à mesure que vous vous dirigez vers la Manche et l'Atlantique. Sur les côtes, ce sera très agréable cet après-midi avec des températures en hausse à l'ouest, mais qui restent fraîches à l'est. Seulement 18 à Besançon au meilleur de la journée. Il fera 21 à Cherbourg, 22 à Lille, 25 à Paris, ça remonte, 25 à Nantes. Il fera 30 à Montpellier.
Ça se dégage petit à petit.
Exactement, par l'ouest du pays.
Avant un beau week-end.
Exactement.
Super, Marina Giraudot.
RTL Matin
avec Stéphane Carpentier.
Et l'essentiel de l'actualité à 8h33 avec Hortense Crépin.
Plus de 8800 nouveaux cas de Covid en 24 heures en France, c'est deux fois plus que la semaine dernière, alors que le pass sanitaire entre en vigueur dans les cinémas ou encore les théâtres dans 6 jours. Un levier, selon Gérard Larcher, invité tout à l'heure sur RTL, et qui dit soutenir les mesures annoncées par Emmanuel Macron, mais sous la réserve du contrôle du Parlement. Si l'on voit que c'est nécessaire au dernier trimestre, il faudra aller vers la vaccination obligatoire, déclare le président LR du Sénat. Et alors que les injections contre le coronavirus se multiplient, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur les trop faibles vaccinations des plus jeunes pour d'autres maladies comme le tétanos. 23 millions d'enfants sont considérés comme sous-vaccinés dans le monde. C'est 3,7 millions de plus qu'en 2019. Les intempéries et toujours 10 départements du Grand Est en vigilance crue et inondation. Elles ont fait 4 morts et plus d'une cinquantaine de disparus dans l'ouest de l'Allemagne. 2 personnes ont perdu la vie en Belgique. La ligne de train entre Thionville et Luxembourg est elle pour le moment interrompue. Et puis Emmanuel Macron sur la 18e étape du Tour de France cet après-midi, 130 km entre Pau et Luzarbiden avec l'ascension du Tourmalet. Sur la ligne de départ, Pogacar toujours en jaune après avoir gagné l'étape d'hier. Ça démarre à 13h50, à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Avant cela, à 12h50, Christophe Paco et RTL chez vous. Et puis à 18h30, le club Jalabert.
Joli programme, merci Hortense, il est 8h34.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain, ce sont nos entretiens du matin après 18 mois de virus. Une personnalité conjugue sa vie au passé, au présent et au futur. Ce matin, face à Guillemette, un top chef, un étoilé.
Bonjour Philippe Etchebest.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va ? Vous me demandez ça avec un ton très grave. Je suis un peu sous l'eau, mais je suis pas noyé. On va dire ça comme ça. Donc ça va.
Philippe Etchebest, vous êtes un homme très occupé. Est-ce qu'au fond, ce confinement, il vous a fait du bien ?
La première semaine. Parce qu'en fait, j'ai fait des choses que j'avais pas le temps de faire en temps normal. Sauf que la réalité, elle reprend vite le dessus. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, merde, putain, on est quand même fermé, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette première semaine de confinement que vous faisiez jamais ?
J'ai fait une cabane, pour vous dire, pour mon épouse, dans les arbres. Elle fait beaucoup de photos, des photos animalières. Voilà, je lui ai fait une belle cabane dans les arbres pour qu'elle puisse prendre de belles photos dans les bois.
Si vous deviez trouver un mot pour qualifier le Covid, là, vous pensez à quoi ?
Saloperie. Saloperie de Covid. finalement, il y a des choses qui deviennent réalité. Hein. On voit des films parfois, là, un peu catastrophe, puis on se dit, bah, ça n'arrivera jamais. Mais en fait, ça arrive. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, L'Armée des 12 singes, avec Brad Pitt, qui est un film justement où un mec, il va balancer un virus dans le monde entier. Bah, en fait, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Comme quoi, on est fait de rien. On est rien du tout, d'ailleurs. Ça doit nous servir de leçon, tout ça, et au-delà de faire attention à nous, de faire attention au monde en règle générale. On est de passage, bien sûr, et puis à ceux qui vont arriver après, et je crois qu'il faut penser à eux aussi.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain?
Moi, je vois, en tout cas, à travers une génération qui arrive de trentenaires, je suis entouré de jeunes. J'ai cette chance-là, ce qui me permet de garder un esprit toujours vif et affûté aussi. C'est bien d'échanger avec eux. Je trouve que cette génération est beaucoup plus sensible à l'environnement, beaucoup plus que nous l'avons été, moi, voire même mes parents. Donc forcément, je pense que ça aura, je l'espère en tout cas, ça aura une incidence sur le monde d'après, sur l'environnement.
Vous êtes cuisinier, mais vous jouez aussi de la musique dans un groupe.
Allez !
Est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont le plus manqué pendant le confinement notamment ?
Ah, c'est terrible. Ah ouais, carrément. En 2020, on devait faire au mois de juin justement un concert qu'on faisait chaque année depuis 2017. Oh là là, le fait de ne pas faire cette fête de la musique, alors quelle frustration. Oh, c'est affreux. Non, mais bon sang, c'est un détail dans l'absolu, vous vous rendez compte. Je suis en train de dire un truc, mais alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se sont passées. C'est vrai que ça a été frustrant de ne pas pouvoir faire cette fête de la musique.
Cette année, vous vous êtes rattrapé?
Ouais, on a fait 3 concerts d'affilée, là, le 19, le 20, le 21. C'est, on n'avait jamais fait ça.
Est-ce qu'il y a une musique, un son que vous avez beaucoup écouté pendant cette période, que vous avez particulièrement aimé?
J'écoute beaucoup de musique, c'est très varié. Mais s'il y en a une, peut-être que je retiendrai, c'est Let It Be, les Beatles. Let it be. Comme il y avait cette frustration de ne pas pouvoir jouer, avec les copains, on a fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et je l'ai beaucoup répété, donc je l'ai beaucoup écouté. Et c'est vrai que c'était apaisant. Tu te dis, ben voilà, le football, quoi. Voilà. Prends un peu, souffle un peu, quoi. Voilà. J'ai mon épouse qui me... c'est le yin et le yang. Vous savez, avec ma femme, moi, je suis un peu le feu, ça bouge, c'est bien. Puis elle calme, elle temporise. Arrête, viens marcher un peu. Voilà. Pense à autre chose. Puis c'est vrai que ça fait du bien, en vrai. Donc je me laisse porter par ça.
Merci beaucoup, Philippe Etchebest.
Merci à vous, avec plaisir.
Et demain, les entretiens confidences au réveil, c'est signé tous les matins de l'été avec Guillemette Franquet. C'est un beau titre pour aller à Cannes sur la Croisette, rejoindre Michael Lefebvre et notre monsieur cinéma Stéphane Boutsock. Bonjour à tous les deux.
Salut. Bonjour tout le monde.
Tout va bien?
Oh, bah, pas mal du tout. Bah, temps de rêve.
Je l'entends dans vos voix. Comment?
Oui. Temps de rêve sur la côte.
Il pleut, il fait froid.
On profite.
C'est pénible, ces gens dans le sud.